Chaque soir jusqu'à minuit, profitez de la troisième mi-temps dans l'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Débrief, analyse, commentaires à chaud. Retrouvez tous les conseils de nos consultants pour vos prochains paris sportifs.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Salut à tous, ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 19h, 2h pour revenir sur les enseignements de cette folle saison de Ligue 1 avec Seb Piocelle comme tous les dimanches. Salut cher Seb.
Salut Marina, bonjour à tous.
Et avec coach Courbis également qui est avec moi. Salut coach.
Salut les amis.
La forme tous les deux?
Bah oui,
très bien, ça va.
Ah bah super, on va faire le point avant de se plonger dans toutes ces thématiques foot sur les directs, les événements en live sur RMC avec tout d'abord cette finale de Coupe de France de handball qui a débuté. Salut Arnaud Valadon, c'est toi qui nous la commande. Montpellier face au PSG handball.
Bonjour Marina, bonjour à tous. C'est parti depuis 8 minutes à Bercy et 4 partout. Égalité dans ce match très important. Paris qui n'a plus gagné depuis 2022 la Coupe de France. Montpellier depuis 2016. En particulier un certain Valentin Porte, celui qui a pris sa retraite internationale. Il reste sur 3 finales perdues de suite à Bercy. Il avait déclaré « Je suis un peu le Clermont ». Du handball en référence à Clermont-Ferrand en rugby qui a beaucoup perdu de oui. finale avant d'en gagner. Donc voilà, pour l'instant c'est serré. 8 minutes de jouer dans cette première mi-temps et 4 partout entre le MHB et le PSG.
Et il va être disputé cette finale. Merci Arnaud, à tout à l'heure. Il y a également du cyclisme avec le Giro, c'est la 9e étape toujours en cours. Johan Bredov, salut.
Salut Marina, salut Seb, salut coach, salut à tous. Salut. Encore 8 km à parcourir dans une étape qui va faire date dans l'histoire du Giro et dans l'histoire des grands tours. Elle est magnifique cette étape depuis le début de la journée. 4 heures de course, deux hommes qui vont certainement se disputer et la gagne dans les rues de Sienne dans 8 km maintenant. Wout van Aert est là, c'est il est pas mal Wout van Aert, le Belge, dans la roue d'Isaac Del Toro, le coéquipier de Juan Ayuso, qui est en train de faire un numéro dantesque, le jeune Mexicain. Il possède 45 secondes d'avance sur Egan Bernal et possède 1 minute et 15 secondes sur le groupe justement de Juan Ayuso qui est là. Et derrière, à 2 minutes, on a le grand perdant de cette 9e étape, c'est Primoz Roglic, pris dans une chute, qui a crevé en plus après, qui est pointe à 2 minutes et donc à 1 minute de son principal rival pour la victoire finale, Juan Ayuso. On attend donc maintenant dans 7,6 km le duel entre Wout van Aert et Isaac Del Toro à Sienne.
Et tu nous feras vivre ça, Johan. Merci beaucoup, Johan Bredov, pour le cyclisme. Dans quelques minutes également, on suivra la finale du Masters 1000 de Rome entre Sinner et Alcaraz avec Eric Salio, notre spécialiste, bien sûr. Mais le foot, pour commencer avec tous ces enseignements après cette dernière journée. Hier, ça y est, le verdict est quasiment acté pour tous. Et on va commencer avec le maintien, parce qu'il a été acquis de haute lutte. On parlera de Saint-Etienne dans un instant qui a sombré, c'était prévisible. En revanche, cette équipe du Havre s'est maintenue, acquis avec les honneurs après un match de dingue hier. On a le plaisir d'être avec l'entraîneur du HAC, Didier Digard, en direct sur RMC. Salut Didier.
Salut.
Bienvenue sur RMC avec coach Courbis.
Salut Didier.
Et Seb Piocelle pour discuter
Didier.
Et avec
bravo.
Toi. La petite voix, Didier, ça va? C'est l'émotion qui est retombée, la fatigue qui te tombe sur les épaules. Comment ça va déjà?
Ouais, j'ai pas encore dormi. J'ai pas encore dormi depuis hier, donc on commence un petit peu à fatiguer, mais on a vécu des belles émotions, donc ça maintient.
Ouais, t'auras le temps de dormir dans les jours qui viennent. Raconte-nous un peu cette soirée folle avant la fête, bien sûr. Cette soirée folle sur le terrain, parce que le scénario était assez dingue. Vous affrontiez une équipe de Strasbourg qui pouvait encore espérer une place européenne. Est-ce que ça donne encore plus de crédit et de force à ce maintien obtenu vraiment à la fin sur ce pénalty? Enfin, raconte-nous quelles ont été les émotions par lesquelles tu es passé avec ton groupe.
Oui, après, je pense que c'est des matchs peut-être un peu plus faciles à préparer, parce qu'on sait que l'adversaire a des choses à jouer et va être à 100%, donc on mise pas trop sur l'adversaire, on est vraiment focalisé sur nous et notre performance. Après, je trouve que c'est un match qui ressemble bien à notre saison, pleine d'abnégation, et on y a cru jusqu'au bout et on a été récompensé au bout du bout.
Oui, au bout du bout, tu peux le dire. Ouais, Seb, tu voulais enchaîner?
Non, salut Didier, déjà félicitations.
On sait
que c'était pas une mission facile. Et puis quand on se remémore un peu le début de saison et notamment les matchs à domicile, on a vu, en tout cas on a constaté, puisqu'on a suivi vos matchs régulièrement, qu'il y avait quand même une équipe de caractère. Est-ce que là justement un petit peu avec des joueurs qui sont arrivés au mercato, donc d'expérience, c'est ce qui a fait un petit peu basculer aussi votre saison du bon côté?
Oui, au-delà de la qualité, parce que je veux rien enlever aux joueurs qui sont partis, mais c'était surtout avoir de la fraîcheur mentale, parce que c'était un groupe qui vivait ensemble depuis un petit moment, qui avait peut-être un peu d'usure et qui avait vécu une seconde partie de saison passée un peu compliquée. Donc leur amener de la fraîcheur a fait vraiment beaucoup de bien à ce groupe et on a senti un groupe métamorphosé sur la deuxième partie de saison.
Ouais, Didier Digard en direct sur RMC avec nous. Tu as dit que ce groupe, tu avais fini par l'aimer très fort. Qu'est-ce qui te plaît plus dans ce groupe justement? C'est ce que vient de dire Seb, ce caractère, cette capacité de réaction, l'osmose, qu'est-ce que tu aimes le plus?
Oui, bien sûr. Bah, en fait, un groupe, c'est un peu la manière dont on élève nos enfants. On veut toujours qu'ils nous ressemblent, mais en mieux. Et c'est vrai que avoir un groupe aussi uni avec autant de caractère, c'est une vraie satisfaction. C'était assez compliqué quand on a autant de joueurs en fin de contrat. C'est une situation un peu particulière pour une équipe qui lutte pour le maintien. Mais on a senti des joueurs vraiment très unis et qui avaient à cœur de remplir cet objectif pour le club. Au-delà de leur situation personnelle, et ils l'ont fait avec brio.
Et le public, il y a eu un moment, évidemment, où il y a eu une petite gronde des supporters, au moment où les résultats allaient moins bien, forcément. Comment tu l'as vécu et comment tu l'as géré? Ça s'est géré comment en interne, au sein du club?
C'est jamais des moments évidents. Après, ce qui était un peu plus facile, c'est que c'était assez ciblé parce que c'était pour moi. Donc le groupe a été protégé.
T'as pris pour toi, quoi. T'as protégé le groupe aussi.
Après, j'ai eu la chance d'avoir une direction très forte, très unie, très soudée dans ces moments-là. Donc on a fait front, on a continué de travailler. Après, je le dis toujours, il y a jamais de réel souci avec les supporters parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est des victoires et le bien du club. Et c'est aussi notre objectif à nous. Après, faut trouver la bonne formule et quand les résultats sont là, et ça finit par tourner.
Ouais. Écoute, Didier, ça me fait plaisir de t'entendre de la même façon que compte tenu de ta présence. Et tu sais que je t'aime beaucoup. Mathieu Bodmer aussi. Jean-Michel Roussier aussi. Et donc, savoir qu'il y a ce trio-là dans le même club, je trouve ça sympa. Et dans les périodes difficiles, c'est pas que je vous félicite seulement pour le maintien. C'est que dans les périodes difficiles, le président avec ses soucis de président, Mathieu avec ses soucis de directeur sportif et toi avec les tiens, arriver à serrer les dents et se sauver, même si ça a été in extremis sur une Panenka que d'ailleurs s'il la rate, je suis entraîneur, je l'étrangle. Mais bon, ça c'est une certaine façon de voir les choses. En tout cas, plaisanterie mise à part, bravo, et ta carrière d'entraîneur elle ne fait que commencer. Je mise sur une très très bonne carrière qui va arriver.
Merci beaucoup, coach.
Bon, Didier, justement, toi, tu l'aurais étranglé, Abdoulaye, s'il avait raté sa Panenka, comme dit gentiment coach.
Alors, franchement, si moi je l'avais tenté, je pense que tout le monde aurait tremblé, mais
il maîtrise,
pour Abdou, c'est vraiment franchement, c'était pas du tout un plaisir personnel, c'était vraiment un geste technique pour. Il pensait vraiment que c'était la bonne solution.
Peut-être il a pensé que justement le gardien pouvait penser qu'il faut être complètement dingo pour faire une panenka. Donc comme j'étais sûr en étant gardien qu'il n'y aura pas de panenka, j'ai choisi un côté et paf, la petite panenka.
En plus, c'est quand même le deuxième penalty dans le match. C'est ça qui c'est son deuxième penalty. Et puis toute l'attente qu'il y a eu aussi au moment justement la concentration qu'il faut avoir, comme dit Didier. Après, ça reste un geste technique, mais bon, je crois pas qu'il ait loupé de pénalty cette saison et il est vraiment à l'aise dans ce registre-là, Abdou.
En tout cas, bon, Panenka.
Il a beaucoup de sang-froid. Donc, en tout cas, réaliser.
Panenka ou pas Panenka, c'est quand même une situation extraordinaire, un scénario extraordinaire. Il y a la joie que l'on peut avoir quand on se maintient de la même façon que quand on atteint un objectif. Mais que ça se joue de cette façon-là, c'est vraiment, je trouve ce maintien extraordinaire au niveau des émotions. C'est difficile d'être plus content.
Ouais. Je revois l'image de Didier où il dit calmez-vous, parce que c'est vrai qu'on se dit c'est le pénalty et après il va siffler. Et il sait très bien d'ailleurs qu'il y a une petite situation après pour les Strasbourgeois, que c'est vrai qu'il a laissé un peu de temps. Donc il dit à tout le monde de se calmer. Parce que
je te vois arriver, toi. tu es en train de nous parler d'une équipe, d'un club et d'un match qui a 12 minutes de la fin. Ils s'embrassent comme des fadas. Ils croient qu'ils sont qualifiés. C'est après, ça. Ils perdent 5-4.
Ah,
oui, d'accord. J'ai compris ce que tu voulais dire.
Faut toujours être prudent jusqu'au bout. Bon, bah évidemment, nous on se projette un peu sur la saison prochaine. J'imagine que vous aussi, Mathieu Bonnemer disait que il allait avoir encore moins de moyens, qu'il allait falloir se creuser la tête. Ça va être un sacré dilemme, ça, Didier, pour la saison prochaine.
Oui, c'est sûr que ça va être un gros dilemme. Bon, après déjà que à nous deux on n'a pas beaucoup de cheveux, donc on va essayer de garder ce qui nous reste. Mais c'est sûr que c'est pour ça que l'unité est vraiment une force chez nous et qu'ils ont été très forts dans les moments compliqués et c'est ce qui fait qu'on s'en est sorti et d'être aussi solidaires nous permet justement de multiplier les échanges pour trouver les solutions pour combler ce déficit financier. Mais c'est sûr que c'est toujours dur de lutter et tu te dis toujours que tu luttes pas armes égales. Mais on se rend compte qu'il y a des valeurs qui arrivent malgré tout à combler certains manques. Donc, on va continuer. Après, voilà, la seule chose, c'est comme je l'ai dit, c'est que on ne peut pas penser que le miracle est une recette. Donc, voilà, faut trouver des solutions qui nous offrent un peu de stabilité et espérer ne pas souffrir autant jusqu'à la dernière minute du dernier match.
Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement une saison comme ça, c'est long, c'est éprouvant, cette souffrance que tu évoques, on l'a ressenti évidemment avec vous. Ça veut dire que la saison prochaine, de toute manière, sera éprouvante au même niveau, non?
Juste un truc, Didier, comment t'expliques aussi que vous avez pris 23 points sur 34 à l'extérieur? Alors, parce que justement, là, on parle de groupes soudés et que justement, il faut compenser le petit budget par rapport à d'autres clubs. Et normalement, à domicile, justement, ça doit être une force. Il y a peut-être un travail à faire aussi. Alors, je sais que si on avait la recette, si vous l'aviez, vous l'auriez mis en place. Mais tu arrives à l'expliquer ou pas, le fait d'être aussi performant à l'extérieur, en plus contre plutôt des grosses équipes?
Ouais, en fait, si je dois avoir une frustration sur la saison, justement, c'est ça, c'est les résultats à domicile, parce que notre public a toujours répondu présent. On a toujours rempli le stade à domicile et malheureusement, on n'a pas eu de réussite. On n'a pas été spécialement plus entreprenant à l'extérieur qu'à domicile, mais ça nous a pas souri. Donc c'est vraiment un axe de progression pour la saison prochaine, parce que on a vraiment besoin de tout le monde et surtout de nos supporters. Donc on espère leur offrir des résultats à domicile.
En ce qui concerne les résultats, et mieux placé que toi, c'est difficile. Donc, il y a évidemment des meilleurs résultats à l'extérieur qu'à domicile, mais il n'y a pas surtout des meilleurs résultats depuis une quinzaine de matchs, ou même un petit peu plus, que dans la première partie, ou je me trompe?
Oui, non, on a fait une phase retour très cohérente. À la 20e journée, on était dernier du championnat. Et puis on a su relever la tête, donc on a fait malgré tout quelques ajustements, on a eu des recrues, on a pu changer de système de jeu aussi, et je pense qu'on a été beaucoup plus performant avec le ballon. C'est ce qui nous manquait, et après on s'est rendu compte que pour avoir le ballon il fallait le récupérer et que du coup ça demandait de gagner des duels. Donc c'est toute une mentalité qui a changé, toute une approche des matchs qui a changé, et ils se sont bien approprié les choses et ils ont bien répondu présent sur les messages qu'on leur a fait passer.
Eh ben merci beaucoup Didier Digard d'avoir été avec
Salut
nous.
Salut Didier, je crois que tu vas passer de bonnes vacances, mieux que Reims, sans savoir ce qui va se passer ni en Coupe de France, ni au barrage. Mais sincèrement, quand on parle de la Panenka à la dernière minute, on se met aussi un petit peu à la place de Reims, qui ont pris une bosse sur la tête, qui doit faire très très mal, parce que jamais ils devaient penser jamais devaient s'y attendre.
Eh oui. Bonheur des uns qui fait le malheur des autres. Merci beaucoup Didier Digard, bon repos.
Salut, et
au plaisir.
Didier.
Au plaisir de te retrouver en Ligue 1 la saison prochaine. Salut, merci ouais. beaucoup. Le Giro, la 8e étape, Johan Bredov, le finish, ça y est, on y est. Hein.
Ouais, c'est terminé même pour. On a le vainqueur, c'est Wout van Aert qui s'impose, magnifique victoire. Lui qui a retrouvé des couleurs dans ce début de Giro, Wout van Aert qui s'était déjà imposé à Sienne devant Isaac Del Toro. Et là, on attend l'arrivée des favoris avec Giulio Ciccone qui va terminer juste devant Richard Carapaz à quelques longueurs derrière. On a Simon Yates et Antonio Tiberi, et on attend Juan Ayuso qui vient juste de passer la ligne, l'Espagnol. Mais derrière, loin derrière, à plus d'une minute, on a Primoz Roglic qui a chuté, qui a crevé, qui a perdu énormément de temps. C'est lui le grand perdant de cette 9e étape, le Slovène. Donc on va attendre son arrivée, mais il vient de rentrer dans les remparts de Sienne. La victoire en tout cas de Wout van Aert, et elle fait plaisir. C'est là, après un début de saison très compliqué, toujours placé mais pas gagnant, on trouvait qu'il manquait de jambes, le Belge. Mais là il vient de s'imposer devant le jeune espoir, la future star du cyclisme mondial, Isaac Del Toro.
Merci beaucoup Johan Bredov pour cette 8e étape du Giro qui vient donc de se terminer. La finale de la Coupe de France de handball, elle est toujours en cours, c'est entre Montpellier et le PSG handball. Arnaud Valadon.
On joue depuis 18 minutes, c'est Paris qui est devant d'un petit but, 9-8, et en plus possession parisienne, Montpellier qui a mené de 2 buts en tout début de partie, et Paris a laissé passer l'orage. Il y aura même un jeu de 7 mètres obtenu par Kamil Sipchak, le Polonais. Donc ce ballon pour passer à plus 2 pour les Parisiens. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Karl Konan qui est retombé sur un pied, la cheville a tourné pour le pivot, un défenseur international français. Il va essayer de forcer pour revenir, pour aider le MHB Montpellier, mais il n'y a pas forcément des bons signaux positifs pour les joueurs d'Éric Mathé. Paris qui mène 9-8 à 12 minutes de la mi-temps.
C'est toujours serré, merci Arnaud Valadon. Intégral Foot revient avec Seb Piocelle, avec coach Courbis. On va parler de Marseille dans un instant. Vous pouvez nous rejoindre au 32-16, vous les auditeurs, à tout de suite.
MC Intégral Foot,
Marina Lorenzo.
Toujours avec Seb Piocelle, avec coach Courbis, avec Eric Salio qui attend impatiemment le lancement de cette finale du Masters 1000 de Rome entre Sinner et Alcaraz. C'est imminent, Eric. Hein, t'es là avec nous et on va le vivre dans un instant. Oui, on est là.
Il y a eu
du retard
parce qu'il y avait une finale double très longue, malheureusement, qui n'a pas souri aux Français. Mais donc, ça va débuter dans quelques secondes. Le Foro Italico est plein à craquer. 10 000 tifosi qui vont pousser pour Yannick Sinner pour signer un doublé historique, parce qu'hier, Paolini, Jasmine a remporté le simple dame. Donc, ils rêvent d'un doublé, les Italiens.
Allez, ils rêvent, les Italiens. C'est toi qui vas nous faire rêver avec cette finale dans un instant. Mais on revient au foot, bien sûr. On va ouvrir une grande page Marseille. Est-ce que le bilan de cette saison est pleinement réussi? Marseille, évidemment, retour en Ligue des Champions direct. Une dernière sortie à la maison réussie hier avec cette victoire contre Rennes. Tu étais coach au match?
Non. Moi, j'étais du côté d'Avignon. Tu sais que j'ai été invité par FR3 pour les héros du gazon. C'est un feuilleton que Pascal Dupraz a fait aussi. On accompagne deux équipes, appelons ça moyenne, parce qu'on est sympa très avec moyenne. Eux en disant moyenne.
Et donc,
j'ai malheureusement pas pu y aller. Mais bon, tu verras, fin août, début septembre. Je peux pas te dire le résultat parce que hier, c'était pour le dernier feuilleton, un match avec l'équipe de Pascal et la mienne. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'il y a eu 6 buts. Donc, je peux pas te dire si c'était 3-3, 4-2, 5-1. Il y a eu 6 buts dans le match. C'était une finale magnifique.
Suspense total. Merci pour le teasing, coach de ces héros du gazon. Allez, Flo Germain est avec nous pour parler de Marseille et de cette saison, pour faire un bilan global. Salut Flo.
Salut Marina. Salut Seb.
Salut Flo.
Avec donc cette dernière réussie à la maison, évidemment, tout ça s'est terminé en apothéose cette saison de Marseille. On va se projeter un petit peu, savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut jeter. Est-ce que De Zerbi est sûr de bien pouvoir rester sur ce banc? Quelles sont ses conditions également? On va parler de tout ça avec toi. Peut-être d'abord, pour lancer les discussions, un petit sonore de Neil Maupay qui parle de cette deuxième place, mais qui parle aussi de cette saison qui a été parfois tendue.
Ça y est, c'est fait, hein. Malgré toutes vos critiques, tout ce qui s'est passé cette saison, malgré les hauts et les bas, on a été deuxième quasiment tout le temps et on finit deuxième. Donc l'objectif est rempli et c'est mérité pour le club, pour les supporters et pour les joueurs, parce qu'on a des joueurs exceptionnels.
Voilà, c'est fait malgré toutes les critiques. Il avait besoin de le dire, Neil Maupay, hein, Flo, il avait besoin de sortir ça.
Oui, bah écoute, c'est comme si c'était un slogan, peut-être qu'ils l'ont affiché dans le vestiaire, le seul contre tous, seul contre les journalistes.
Ah, tu signes pas à l'OM, hein,
je sais pas, pas y a, peut-être qu'il y a des cibles avec les journalistes de RMC, de l'équipe et qui s'amusent à lui. Il est très bon en fléchette, Neil Maupay, peut-être qu'on a des photos dans le vestiaire et qu'il nous vise avant chaque match et que ça les motive, je sais pas. Je crois pas, honnêtement, je pense que c'est plus un petit artifice qu'ils ont trouvé pour peut-être être encore plus soudé. Ouais. Après, il y a une part de vérité, enfin en tout cas que au sein du club, toute la saison, il y a eu un peu cette petite musique des arbitres, des instances, des médias un petit peu durs. Là où je veux bien les comprendre, parce que après on en a un peu parlé avec Neil Maupay sur ce qu'il voulait exactement dire, ce qu'il avait à nous reprocher, c'est juste que peut-être que nous on est plus surpris tellement on fait de débats là-dessus, mais les joueurs qui sont arrivés, je pense qu'ils savent que l'OM est un club populaire à pression, mais peut-être qu'ils s'attendent pas à ce que tous les jours ou tous les deux jours y ait des articles et des critiques sur l'OM, et peut-être que quand tu le touches du doigt, au final tu te dis ah ouais ok, c'est pour ça que l'OM c'est difficile. Et effectivement ils comparaient avec avec Lille, avec Rennes, Monaco, qui ont eu des périodes parfois aussi compliquées cette saison, et pour lesquelles peut-être on fait moins de autant, enfin on fait moins de débats, ça crée moins de polémiques, et ça va être l'OM, bah on s'ennuie pas hein, avec avec Marseille. Hein. Je le dis en connaissance de cause, ça fait 20 ans qu'on y est, donc on s'ennuie pas avec Marseille, y a pas de souci. Et Nîmes Montpellier, on est peut-être surpris, mais je peux le rassurer, on va continuer la saison prochaine et encore plus parce qu'il y aura la Ligue des Champions.
Ah ouais, là c'est sûr que s'ils trouvaient qu'il y avait de la pression cette saison, on verra la saison prochaine. Est-ce qu'on est plus indulgent avec les autres équipes, coach, qu'avec l'OM? On a été trop dur avec l'OM ou pas cette
saison? Je dis comparons ce qui est comparable. Ce qui se passe à Marseille, c'est un club particulier. Si je fais une sélection des clubs français, je mettrai Marseille, Paris Saint-Germain et Lyon comme compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour les autres. Mais quand on est à Marseille, là, j'écoutais ce qui vient de dire, et disons, presque nous le balance dans la gueule. Mais on peut être critiqué quand on est critiquable quand même. Il faudrait lui poser la question.
Ils n'ont pas été trop attaqués, je trouve, finalement.
À Mopé.
Ouais, finalement, tu trouves que ça a été soft, donc,
franchement,
moi et Flo, il est encore certainement avec moi. J'ai vu pire.
Largement. Même en termes d'ambiance globale.
Ah ben, dis donc.
Parce que souvent, ça va avec. C'est-à-dire que s'il y a des critiques médiatiques, il y a aussi une pression forte, des banderoles, une ambiance un peu nauséabonde. Moi, j'ai rien vu de tout ça cette saison à Marseille. Alors, après, qu'effectivement il y ait des choses à dire sur l'arbitrage, si pourquoi pas. Enfin, moi, je laisse les dirigeants libres. S'ils ont ce sentiment-là de temps en temps, c'est peut-être que on peut pas non plus dire que c'est de la paranoïa uniquement. Peut-être que je veux bien comprendre qu'ils aient eu des sentiments d'injustice à certains moments. Moi, je l'accepte. Mais honnêtement, cette saison, ça s'est globalement bien passé. Roberto De Zerbi, je trouve, en a un peu fait beaucoup aussi là-dessus, sur le côté les médias, vous êtes contre nous. Bon, moi j'ai pas senti ça, je suis honnête, j'ai pas du tout senti ça, et c'est pas parce que on est journaliste et que on se regarde le nombril et qu'on n'ose pas être lucide. Honnêtement, les médias, les supporters marseillais ont été relativement soft cette saison avec l'OM. Ils sont pas au bout de leur surprise s'ils pensent que c'était une saison à pression.
Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que cette saison est quand même si elle est pas parfaite, mais la perfection, je l'ai encore jamais vu dans le football. Mais le plus dur est à venir pour moi. C'est que là, la première année de ce projet de 3 ans, elle est réussie. Après, on va peut-être trouver quelques points gris, voire même des points noirs. Moi, cette élimination en Coupe de France, qui était pour moi la Champions League pour l'OM, je l'ai toujours en travers. Mais après, des conneries, tout le monde en fait. Mais là, après, profiter du fait que tes adversaires principaux, le mardi, le mercredi et le jeudi, ils ont quand même des occupations, alors que toi, ton occupation, c'est de les regarder devant la télé. Eh bien, cette saison-là, on t'a donné la possibilité de la vivre. Tu l'as bien vécu en terminant deuxième, même s'il n'y a même pas 2 points par match. Les traditionnels vice-champions, normalement, ils ont au moins 2 points par match. L'OM n'a pas atteint ça. 9 défaites, ça me paraît être quand même le maximum qu'on peut avoir. Et ensuite avoir des joueurs qui ont joué une trentaine de matchs en 10 ou 11 mois, eh bien je dis bravo, mais maintenant on va attendre l'intersaison, on va attendre les départs, les arrivées, et quand il va y avoir les matchs tous les 3 jours, terminer les matchs à la télé.
Pour la petite histoire, excuse-moi, parce que comme il y avait Nîmes Montpellier en interview, pour la petite histoire, il a reçu hier un prix d'un de nos confrères de Maritima qui s'appelle le prix Orange. Et en fait, ce sont les journalistes marseillais qui suivent l'OM qui votent pour le joueur qui a été le plus sympathique, le plus disponible avec la presse. Et c'est lui qui l'a emporté, donc il a eu ce petit trophée. Donc je trouve ça drôle qu'à posteriori, nous en plus, on lui offre le trophée, on lui dit tiens Nîmes, tu as été super sympa, tu as été disponible en zone de presse, et il nous met un petit tacle. Si j'avais su, moi, vraiment, j'ai pas voté pour lui. Moi, j'ai voté pour un Argentin qui est capitaine et qui est très disponible aussi. Donc voilà, j'aime bien ce petit prix et je voulais aussi le dire.
Ouais, c'est important. Bon, justement, coach, il parlait de la suite next, hein, la prochaine saison. Évidemment, c'est ça qui va nous intéresser. Mais maintenant, pour toi, Seb, qu'est-ce qu'on peut retenir de positif de cette saison? Globalement, on va rentrer après dans le détail, les individualités peut-être. On retient quoi de positif et qu'est-ce qu'il faut jeter de cette saison?
Le point positif, c'est déjà d'avoir atteint justement les objectifs. C'est la qualif en Ligue des Champions, puisque c'était vraiment l'objectif numéro 1. C'est pour ça que Moi, je pense qu'on est dans le droit de critiquer un petit peu, sachant qu'il ne jouait pas de Coupe d'Europe, et que quand on regarde le recrutement plutôt massif, on a même été surpris de voir certains joueurs arriver à l'OM, notamment Rabiot ou Højbjerg. Donc, on va dire qu'ils ont réussi à atteindre l'objectif et que c'est pas un miracle. Voilà, se servir surtout de ça, parce que je pense quand même qu'il y a un noyau dur qui s'est créé avec une identité, même si parfois Roberto De Zerbi. Je pense que c'est beaucoup d'entraîneurs étrangers qui arrivent dans le championnat de France qui sont surpris par la qualité en fait du championnat et qui doivent se réadapter un petit peu. Et donc, on va dire. Bon, on va en parler certainement après, savoir si le coach va déjà rester.
Oui.
Mais c'est surtout pour ne pas que ça reparte, on va dire, de zéro. Surtout garder l'entraîneur et puis et forcément améliorer chacune des lignes. Mais bon, on sait que le board marseillais est un spécialiste de changement tous les mercato. Donc on peut s'attendre en termes d'arrivée et de départ à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements.
Disons que par moment, il est quand même difficile à suivre.
Et là,
je pense que la venue d'un joueur professionnel qui a eu la chance d'avoir fait du football son métier, eh ben, il verra qu'il y a deux métiers différents. Il y a les métiers au Paris Saint-Germain, à l'Olympique de Marseille et à Lyon. Et après, il y a un autre métier. Alors, c'est pareil pour l'entraîneur, hein. Donc, quand tu as un entraîneur capable d'entraîner l'OM, j'ai pu voir un petit peu ce que c'était avec la comparaison d'autres clubs, mais c'est un autre métier. Et donc, que De Zerbi soit surpris des difficultés que l'on peut avoir quand on est entraîneur de Marseille, mais je reste persuadé que dans la deuxième année, il sera peut-être meilleur et il se servira de cette première saison qui a été aussi, avec ses déclarations à lui, j'ai vu de bonnes déclarations. Des conneries, on en dit tous, mais des fois, ça.
Il n'a pas eu besoin de nous, des fois, pour se mettre
au
feu.
Ah, ben ouais, donc, sincèrement, là, maintenant, c'est quoi le problème? Mais quand c'est qu'il a été question que dans un projet de 3 ans, un entraîneur qui est arrivé avec un salaire astronomique, 9 copains pour former un staff médical, on n'est encore pas sûr qu'il va.
On n'est pas sûr qu'il va faire la
deuxième année, mais c'est quoi cette connerie, là?
On n'en est pas sûr. Après, il y a des tendances qui se dégagent et après, c'est même risqué d'être affirmatif. Moi, j'ai le sentiment que la raison va l'emporter, même si des fois ces prises de parole peuvent nous faire douter. Encore hier, la conférence de presse d'après match, aussi parce qu'on a posé des questions. Et c'est vrai que sur 7-8 questions, je pense qu'il y en avait 6 qui étaient liées à son avenir, hein, ce qui est normal. Lui, il laisse planer un certain doute. Donc moi je vais pas me mouiller à 100%. J'ai le sentiment que la raison va l'emporter parce que les dirigeants ont besoin de stabilité et qu'à un moment donné, je sais pas si les dirigeants de l'OM trouveront encore une manière de justifier un éventuel départ après Sampaoli, après Tudor, après ne parlons pas de la saison passée avec 3 ou 4 entraîneurs. Bon, il faut de la stabilité. Donc les dirigeants de l'OM, Mehdi Benatia et Pablo Longoria, savent que ils doivent garder Roberto De Zerbi, même si parfois il y a eu quelques petites crispations cette saison. Et Roberto De Zerbi, lui aussi, il a un peu cette étiquette d'entraîneur qui dure pas très longtemps. Alors tu viens à Marseille parce que tu aimes la pression, la passion. Il nous dit même, et moi il me l'a dit les yeux dans les yeux parce que j'étais allé à Rome, j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui. Dans les salons de l'hôtel, et il me disait, moi j'aime cette polémique, je lis vos articles, j'ai pas de problème. Alors s'il y a pas de problème, il est où le souci? Il y a la Ligue des Champions, donc c'est juste, et je vous le dis, c'est juste qu'il y a besoin de se mettre autour d'une table. Et je pense qu'il y a aussi des égos qui sont forts chez les dirigeants de l'OM et chez ce staff là et tout simplement ils ont besoin de se dire les choses sur des épisodes qu'ils ont mal vécu. Il y en a un que Roberto De Zerbi a assez mal vécu, c'est la vraie fausse mutinerie après le match à Reims où il a été écrit que les joueurs en signe de rébellion avaient presque voulu ne rester au vestiaire parce que Roberto De Zerbi ne voulait pas faire l'entraînement. Lui, sa version, elle est totalement différente à Roberto De Zerbi. Il dit que c'est une stratégie qu'il emploie de temps en temps de prendre du recul, de laisser son staff gérer les séances. Et il a le sentiment que peut-être on a voulu faire passer l'image, alors qui, point d'interrogation, mais d'un coach qui avait perdu la main sur le vestiaire. Et c'est un épisode qui l'a profondément marqué parce que Roberto De Zerbi, il est soucieux de son image et aussi aussi, il ne supporte pas l'idée qu'on puisse faire croire que les joueurs étaient contre lui. Et donc, il a besoin tout simplement de se poser, de faire le bilan, de dire voilà, ça, j'ai pas aimé, ça, on aurait dû gérer autrement. Et j'ai l'impression que c'est surtout ça. C'est, parce qu'il ne faut pas faire passer Roberto De Zerbi pour quelqu'un qui, à la Jorge Sampaoli, va demander des recrues et un investissement massif en disant moi, si j'ai pas un tel, si j'ai pas tant de millions de dépensés, je pars. C'est pas ça le sujet. Le sujet, il est plus de se retourner sur ce qui n'a pas été cette saison, sur certaines tensions en interne, se regarder dans les yeux et dire ok, bon, faut améliorer telle ou telle chose et on repart pour un tour.
Mais du coup,
j'ai la conviction que c'est ça.
Flo, du coup, une question là, par rapport à un potentiel départ de De Zerbi, c'est plus une volonté de l'entraîneur ou une volonté de la direction ?
Non, pour moi, il y a eu des tensions des deux côtés, mais les dirigeants sont très clairs, ils veulent garder Roberto De Zerbi. Oui, oui. Simplement, Roberto De Zerbi, avec la qualif, la deuxième place, la Ligue des Champions, sa capacité à rebondir aussi, parce qu'il y a eu des périodes de creux, des périodes où c'était plus dur, mais il a su quand même trouver des idées, innover, il n'a pas été obtus sur le système de jeu, etc. Donc, il ressort renforcé malgré tout de cette fin de saison. Donc, pour moi, s'il y a une décision surprenante ou inattendue, ça viendrait du côté de Roberto De Zerbi. Les dirigeants veulent continuer avec l'entraîneur italien. Peut-être que lui, par fierté ou parce qu'il aura encore en travers de la gorge certains épisodes, est capable tout d'un coup de dire non, moi ça me convient pas, je peux pas continuer comme ça. Honnêtement, je pense que la raison va l'emporter et que simplement là, une réunion, enfin dans toutes les familles, toutes les entreprises, des fois il y a des choses qui vont pas et tu te mets autour de la table et tu règles ça. Et je pense que c'est ce qui va se passer.
Rééquilibrer un peu les pouvoirs aussi. Il a besoin d'être plus reconnu, plus entendu. C'est ce que tu nous dis.
Oui, alors c'est aussi peut-être en termes de communication, peut-être effectivement que en interne il y a 2-3 fonctionnements qu'il a pas apprécié, mais coach le rappelait, il a une dizaine de membres dans son staff, il a quand même déjà le recrutement se passe de manière collégiale, faut pas nous vendre un oui mais lui c'est ouais, mais qui l'a choisi, lui c'est de Germinant, c'est tout le monde en parle, Flo, et tout le monde se met d'accord.
Tu sais que des fois on exagère un peu dans cette région. Tu sais que des fois, on est un petit peu taquin. Donc, il y en a un qui peut-être va lui poser la question. Le fait que Sassuolo soit remonté en première division, il n'y a pas eu une surenchère en douce, là, comme ça, pour essayer de vous récupérer. Donc, on peut lui poser cette question, des fois.
Exactement. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Ça, c'est clair et net que. Et puis bon, c'est quand même un sujet qui devient presque agaçant aussi. Mettez-vous à la place des supporters marseillais, parce que les supporters marseillais, oui. Comme tu l'as dit, coach, et je pense que c'est ton cœur de supporter ou d'amoureux de l'OM qui a parlé, ou tout simplement de football. Quand tu vois une saison qui se termine globalement bien avec un Marseille à la deuxième place, il y a peut-être des choses effectivement à ajuster, mais globalement, c'est vrai que ça peut être un peu surprenant. Roberto De Zerbi ne dit pas hier en conf de presse je vais rester à 100% mais on va améliorer 2-3 trucs.
Ah, il a besoin de mettre un peu la pression.
Je te le résume en une phrase, Flo. Le plus dur est à venir. Mais bravo pour cette saison et pour cette première saison.
Éternelle capacité à se mettre le feu tout
du
seul.
Du projet de 3 ans.
On va continuer de parler de l'OM. On rentre un peu plus peut-être en détail sur les individualités dans un petit instant. Avant cela, un point sur la finale de Coupe de France de handball, parce que c'est la pause Arnaud Valadon entre Montpellier et le PSG handball.
Et c'est le MHB qui est devant d'un petit but, 17-16, 6 buts notamment pour le nouvel international Benjamin Richer. Et donc, pas non plus une surprise, Montpellier est un gros client, un gros poisson de ce championnat et du handball français. Et voilà, Paris mené d'un petit but, 17-16 pour le MHB à la pause.
C'est toujours serré. Et pendant ce temps, la finale du Masters 1000 de Rome a débuté. Eric Salio entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz.
Ouais, un gros quart d'heure de jeu sur le central du Foro Italico. 2-1 pour Yannick Sinner. Pas de break, hein. Pas de break, c'est l'Espagnol qui est au service. Mais attention, il a 15-30, j'ai l'impression que c'est Sinner qui a pris le meilleur départ. Comme ça, à vue de nez.
Allez, à vue de nez, tu nous feras vivre ça, bien sûr. Juste après la pause, et également l'Intégral Foot revient. On continue de parler de Marseille. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel, avec coach Courbis et toujours avec Flo Germain pour parler de l'OM, faire le bilan de cette saison qui se termine par une deuxième place, donc qualification directe pour la Ligue des Champions. Flo, t'es toujours avec nous,
oui,
pour peut-être répondre un peu, enfin parler un peu plus maintenant des individualités, parce que bon, on a parlé du coach, restera pas, mais visiblement il va falloir qu'il y ait des discussions entre la direction et lui. Quant aux joueurs, évidemment, il va falloir faire le tri ou pas, et quelles sont les tendances toi de ton côté? Il y a des joueurs évidemment qu'on veut garder.
Exactement. Bon, si on prend ligne par ligne, parce que c'est vrai qu'on peut pas les faire un par un, mais bon, du côté du gardien de but, Geronimo Rulli, il a fait une bonne saison et je pense que tout le monde est d'accord au sein de l'OM pour poursuivre l'aventure. Derrière, l'un des dossiers qui sera suivi, c'est celui de Leonardo Balerdi, parce que c'est un joueur qui a une belle cote sur le marché. Je sais que le chiffre fait parfois réagir, mais en gros, l'OM, si jamais l'OM accepte de discuter pour Léo Balerdi, ce serait pour qu'il devienne le plus gros transfert de l'histoire de l'OM, qui pour le moment est Michy Batshuayi à Chelsea à 39 millions d'euros. Donc vous avez compris qu'à moins de 40, l'OM ne décroche pas le téléphone pour son capitaine. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui est clivant et qui a parfois fait susciter beaucoup de débats ou de critiques, mais il reste quand même sur une deuxième très bonne saison de suite. Il a pris une autre dimension et la tendance est que l'OM aimerait le garder pour une saison importante de Ligue des Champions et qui s'affirme encore plus comme un leader. Mais malgré tout, le marché pourrait décider, parce qu'il y a des clubs en Espagne notamment qui suivent beaucoup Léo Balerdi. Au milieu de terrain, la Ligue des Champions nous fait dire que Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot sont des joueurs qui ont de grandes chances de rester, même si pour Adrien Rabiot là c'est pareil, hein, quid d'un intérêt d'un club qui serait réveillé, qui tout d'un coup se rendrait compte qu'Adrien Rabiot est un très très
qui
bon joueur
le coup, ouais.
Et qui vaut le coup et qu'il est international et donc on verra. L'OM veut le prolonger parce qu'il avait 2 ans de contrat, donc il lui reste 1 an.
Oui.
Et donc l'idée ce serait de le prolonger et de l'installer encore plus comme un leader également au niveau de ses revenus, évidemment. Oui, coach.
Flo, une petite précision là, ce qu'on entend, les chiffres des fois ils sont un petit peu exagérés, des fois c'est pas les bons. Luis Enrique, tu as les mêmes échos que nous
sur une vingtaine de millions d'euros. Oui. Acheté, scotché là. Ciao coach, merci beaucoup. Bon dimanche.
Tu trouves que c'est trop?
Ah, quand même, sur la saison qu'il fait. Oublie pas que Kevin Diaz l'a appelé Mbappigno quand même.
Ben disons que bon, je suis un peu surpris, mais c'est pas seulement,
tu dirais moins, Roland.
C'est pas seulement par la somme, c'est par le club. Ça serait l'Inter de Milan.
Alors il y a même la Juve, le Suec, attention. Il y a des clubs anglais également qui se sont renseignés. Pour moi, c'est pas un hasard si hier il est resté sur le banc des remplaçants sans même jouer une minute. Je pense que Luis Enrique sera le Marseillais qui sera peut-être le premier vendu. Bon, je peux me tromper.
Si on a un transfert,
faut jamais jouer de rien. Mais effectivement, il sera vendu à plus de 20 millions d'euros, j'en suis.
Voilà, convaincu. Exactement. Si on a un club justement qui s'intéresse à ce joueur et qu'on parle d'une vingtaine de millions, ça va plutôt être dans une fourchette de 25 à 30 que de 20 à 25.
Coach, on va accueillir Florian au 32-16 pour qu'il puisse avoir, qu'il ait le temps de parler avec nous de Marseille. Salut Florian, bienvenue sur RMC en direct.
Bonjour à tous.
Salut. Tu portes aujourd'hui,
la saison de l'OM, elle est réussie. Hein.
Oui, elle est réussie. Ouais.
Elle est réussie en termes de résultats déjà, dans un premier temps, parce qu'on est deuxième, c'était l'objectif. Par contre, en termes de jeu, je pense qu'aujourd'hui, Roberto De Zerbi essaie de mettre en place un jeu. C'est pas toujours facile. On est quand même la seule équipe, on va dire, dans le top 4 de Ligue 1 à pouvoir marquer 4 buts comme hier soir. Et aussi en prendre 3. Et comme l'a dit Flo Germain, aujourd'hui, on a un Balerdi en défense centrale qui est un joueur incroyable, on est d'accord. Mais aujourd'hui, Cornelius, Kondogbia ne font pas l'affaire. Et si on veut viser aujourd'hui la Ligue des Champions, faire un beau parcours comme Brest, comme Lille également, il va falloir se renforcer. Il va falloir que Roberto De Zerbi reste et également qu'on se renforce. On a aussi le départ de Lucien Riquet logiquement. Et on a que Jonathan Rowe en attaque aussi. On a quand même que Nil Mopé et que Guiri. Il faudrait aussi renforcer ce secteur-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est réussi en termes de résultats, mais il y a encore tout à faire.
Ouais, renforcer tous les secteurs pour toi, défense et devant également. Seb, tu...
Ouais, renforcer en qualité évidemment et en quantité, aussi.
Bien sûr.
Je m'inquiète pas
avec le bord
de la trentaine de matchs cette année que les joueurs vont jouer.
On est habitué à ce qu'il y ait énormément de mouvements, donc je pense qu'ils ont... Il a dit Mehdi Benatia qu'il avait contacté tous les très bons joueurs en fin de contrat. Enfin, et puis surtout, on a vu quand même leur force, parce que je reviens là-dessus, mais avoir les trois milieux de terrain d'hier, Benacer, Højbjerg et Rabiot à l'OM dans une saison où il n'y a pas de Coupe d'Europe, tu te dis quand même que voilà, l'OM ça donne toujours envie. Bien sûr, après il faut se tromper le moins possible, mais c'est sûr qu'en termes de quantité et de qualité, ils vont devoir se renforcer, sachant qu'il y aura aussi des joueurs qui vont partir, peut-être à l'image de Quentin Merlin aussi, qui a fait une saison plutôt moyenne dans cette saison correcte de l'OM.
Ouais. Flo, pour les touches offensives, on va dire, qu'est-ce qu'il en est?
Déjà, préciser que derrière, bon, le nom qui revient le plus, c'est celui d'Emeric Laporte. Hein, ouais. Ça nous a été confirmé, d'autant plus qu'il, en résiliant avec Al Nasser, il devient un joueur libre. Donc, c'est une très bonne pioche, très probable du côté de Marseille. Facundo Medina également suivi, même si les négos sont un peu compliqués avec Lens. Devant, écoute, j'ai pas de nom précis à vous donner, si ce n'est que Hermine Gouiri a été recruté comme un numéro 9 et l'OM, vu sa deuxième partie de saison, est convaincu qu'ils ont fait un bon choix. Ça ne veut pas dire que Marseille ne va pas recruter au poste d'avant-centre, parce que la saison est longue, coach l'a rappelé, il y a beaucoup de matchs. Hermine Gouiri peut jouer la Coupe d'Afrique des Nations, enfin joue la Coupe d'Afrique des Nations également, donc il faut faire attention à ces périodes où on serait un petit peu en manque devant. Mais bon, Neil Maupay a rappelé qu'il devrait rester. Faris Moumbania, on espère, reviendra vraiment de sa blessure au genou en tout début de saison. L'OM va vouloir recruter un 9 quand même, sachant qu'Amine Gouiri peut jouer aussi à gauche ou
David,
en 10.
Non,
ouais, Jonathan
David, moi je vous le dis depuis 3 semaines à moi, l'OM a voulu le contacter cet hiver, a voulu le recruter cet hiver. Ils se sont renseignés, ça n'a pas été possible à ce moment-là. Pour le moment, Jonathan David demande trop en termes salarial, parce que il demande un salaire qui est bien au-delà de la grille de ce que touchent même des Pierre-Emile Højbjerg ou des Adrien Rabiot. Oui. Donc il s'agit pas de pour un joueur libre, ok, mais casser la logique salariale d'un vestiaire, vous savez que ça peut rapidement mettre le feu au sein d'un groupe. Donc pour le moment, Marseille ne compte pas recruter Jonathan David parce que ses ambitions en termes de revenus sont beaucoup trop élevées pour l'OM.
Ouais, Florian, un dernier mot peut-être sur ses ambitions de recrutement. Bon, David, a priori, c'est pas pour tout de suite. Laporte, Medina, est-ce qu'il y a d'autres besoins pour toi? Est-ce que c'est des noms déjà qui te rassurent un peu?
Oui, Laporte et Medina, clairement, ouais. Deux joueurs d'expérience, deux joueurs qui peuvent apporter à l'OM, surtout en Ligue des Champions. Laporte, je crois qu'il a pas mal de matchs en Ligue des Champions également, donc je pense que c'est un bon renfort. Après, sur les côtés, clairement, à droite, défenseur droit, défenseur gauche, on a Dodic qui est une recrue qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Je le trouve un petit peu encore saignant, il n'a pas encore fait ses preuves. À gauche, si Merlin part, clairement, il va pouvoir se poser la question qui on va pouvoir recruter et surtout à quel prix, hein, parce qu'un défenseur gauche, on le sait très bien, Merlin,
oui, millions. Si tu veux, cher, hein. En ce qui concerne les postes, si je peux me permettre, il y a le profil des joueurs et le profil des joueurs aussi, ça dépend de l'organisation qui sera l'organisation numéro une, parce que je pense qu'il y a toujours deux organisations, mais n'oublions pas que depuis 5-6 matchs, De Zerbi a changé une organisation qui était devenue une organisation avec trois arrières centraux, parce qu'on pensait que Balerdi pouvait jouer dans l'axe de trois arrières centraux. Là, maintenant, si justement on repart, parce qu'il y a la Champions League à trois arrières centraux, mais le profil des arrières latéraux, ce ne seront pas les mêmes. Et à ce moment-là, Merlin peut être intéressant avec trois arrières centraux.
Dedic, je pense qu'il retournera à Salzbourg. Hein. Ouais. Florian, on risque de te décevoir. Effectivement, on avait vu quelques apparitions où on se dit il a du talent, il a quelque chose, mais l'OM avait inclus une sécurité en termes de matchs joués et la tendance c'est qu'il reste pas à l'OM.
Bon, merci beaucoup. Merci Flo Germain pour toutes ces précisions concernant l'OM et cette saison qui se termine sur cette deuxième place. Merci à toi Florian également.
À bientôt.
Salut Flo Germain. Salut Florian également. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été avec nous sur RMC. Salut, et donc on va faire un petit point sur la finale du Masters 1000 de Rome avant de marquer une nouvelle pause. Eric Salio, Alcaraz contre Sinner.
C'est un vrai bas de fer, hein. On se régale parce que les deux joueurs seront coup pour coup. Il y a 3-2 pour Yannick Sinner. L'Italien a tremblé tout à l'heure, il a dû sauver une balle de break et à chaque fois on voit, ils regardent leur clan. Ça prouve vraiment que c'est pas un match comme les autres.
Ça va être tendu. Merci Eric Salio. Allez, une toute petite pause et on se retrouve l'intégral foot avec Seth USL, avec Coach Courbis et avec Arthur Perron. On va parler du PSG, à tout de suite.
RMC, Intégral Foot,
Marina Lorenzo.
Toujours avec Sébastien Piocel, avec Coach Courbis et avec Arthur Perrault qui nous a rejoint parce qu'on est à J-13 de la finale de Ligue des Champions. On va parler du PSG, bien sûr.
RMC, finale de la Ligue des Champions.
Paris Saint-Germain, Inter Milan.
J-13.
J-13, oui, on y est, mais avant cela, il y a une autre finale qui se joue en ce moment, c'est la finale de Coupe de France de handball entre Montpellier et le PSG handball. Arnaud Valadon, la deuxième période reprend.
Ça vient de repartir effectivement, Marina, depuis deux minutes et égalité à l'instant. Paris est revenu 18 partout. Ça fait plaisir de voir une finale accrochée parce que souvent c'était à sens unique, même si Paris n'a plus gagné depuis 2022 cette Coupe de France. Montpellier 2016, la 33e et 18 partout à Bercy.
C'est toujours serré, trois partout, trois jeux partout dans la finale du Masters 1000 de Rome entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Là aussi pour l'instant c'est serré. Allez, le Paris Saint-Germain foot avec Arthur Béraud. Salut.
Salut Marina.
Salut messieurs, bonjour.
Salut Arthur.
Avec enfin une belle soirée de célébration hier. Ça nous avait un peu manqué la saison dernière, mais là cette fois-ci tout était réuni pour qu'on fasse la fête. Luis Enrique compris.
En premier, oui. Ouais, en premier. Et c'est d'ailleurs une de ses dernières volontés, puisqu'il avait dit en conférence de presse de veille de match que contrairement à la saison dernière où le Paris Saint-Germain s'était incliné à domicile lors de la dernière journée, le PSG n'avait pas profité. Et là, il voulait vraiment que voilà son groupe prenne le temps de faire un tour d'honneur, de profiter pleinement de cette très belle cérémonie. Organisé hier soir au Parc des Princes avec notamment un show lumineux, un DJ set d'un DJ parisien. Voilà, on a senti un groupe totalement détendu avec quand même dans un coin de leur tête évidemment les deux finales qui arrivent, à commencer par celle de la Coupe de France.
Et oui, la fête mais pas trop, parce que là effectivement on arrive dans le Money Time, les deux dernières finales, la Coupe de France bien sûr et la finale de Ligue des Champions. Il a pas trop fait tourner en plus Luis Enrique.
Alors il a quand même fait passer des messages de façon très subtile, c'est-à-dire que on notera quand même que pendant cette rencontre face à Auxerre, victoire 3-1, Gonçalo Ramos a fait son entrée en jeu, Désiré Doué également, Mayulu et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et en défense Lucas Beraldo. Ce qui veut dire que et on l'a vu, Luis Enrique a quand même demandé à Ousmane Dembélé s'il était d'accord pour sortir à l'heure de jeu,
oui.
Chose qui a été faite.
Oui.
Ça veut dire que même dans cette période de célébration de titre de champion de France, il a veiller au temps de jeu des uns et des autres. Donc, est-ce que c'est une indication en vue de l'équipe qui sera alignée en finale de Coupe de France? C'est une possibilité, notamment avec une potentielle présence de Gonçalo Ramos pour débuter la rencontre au Stade de France samedi soir. Au milieu de terrain, on peut s'attendre là aussi à un changement. Pourquoi pas la présence de Céline Mayoulou, qui est très appréciée par Luis Enrique. Et d'ailleurs, il a dit en conférence de presse d'après-match au côté espagnol qu'il avait beaucoup apprécié sa prestation. Et puis en défense, on l'a beaucoup répété depuis le début de saison, des joueurs comme Nuno Mendes, comme Achraf Hakimi, comme Marquinhos, qui ont beaucoup enchaîné, pourraient eux aussi être amenés à souffler. Pourquoi pas avec donc la présence de Lucas Beraldo, qui a eu lui aussi un peu de temps de jeu hier soir.
Si on pense à Ousmane Dembélé d'un point de vue très perso, il y avait quand même le classement des buteurs qui était un peu en danger quand même hier.
Oui, bon, tu as bien dit qu'il avait demandé à Dembélé s'il voulait sortir.
Il y a une séquence que personne n'a vue où Ousmane Dembélé est venu discuter avec Luis Enrique et on a compris que Luis Enrique le prévenait qu'il allait le faire sortir. Et Dembélé n'a pas montré de signes de position.
Les calculs qu'on fait sur qui va sortir, qui va démarrer et tout, c'est par rapport à pour la finale de la Coupe de France.
Le prochain match, ouais.
Parce que le prochain match, c'est pas un match comme les autres. C'est une finale de Coupe de France qui est pour moi un événement. Et l'adversaire, c'est un adversaire qui va se taper trois jours avant le barrage et trois jours après le barrage pour se sauver de la première division. C'est quand même une période vraiment particulière. Est très très rare, pour ne pas dire impensable.
Mais donc ça veut dire quoi? Toi, à la place de Luis Enrique, tu aurais fait tourner davantage hier soir?
Par exemple, moi j'ai un problème, qu'est-ce que ça va être Reims alors? Donc je suis en train de regarder dans l'intérêt de mon équipe, et notamment, pour moi, le souci numéro un et l'inquiétude numéro un, elle s'appelle Dembélé. Que Dembélé ne se blesse pas. Et
donc toi, tu l'aurais pas fait jouer hier, par exemple.
Oui, mais alors,
vraiment, en Coupe de France.
Ouais, mais.
Parce que moi, je trouve que là, finalement, tu reviens un match par semaine.
Oui.
Là, tu rejoues samedi et tu rejoues le samedi d'après. En plus, bon, ça, c'est des matchs particuliers parce que c'est des finales. Donc là, il a mis l'équipe type. Allez, il y a Doué. On peut se poser la question, mais je pense que Doué passe devant Barcola.
Je pense aussi, oui.
Et pour moi, il devrait, puisqu'on va parler aussi un petit peu de sa gestion depuis le début de saison, il devrait remettre contre Reims une semaine avant la finale l'équipe qui va ressembler à 95% à celle qui va jouer contre l'Inter, puisque quand même
ça serait une répétition pendant 15 jours, tu joues pas.
Disons que c'est l'éternel problème, ouais. C'est toujours de préciser pour démarrer le match.
Oui, bien sûr. Voilà, ils sortent
au bout d'une heure. Barcola, on va pas dire que Barcola, parce qu'il ne va pas démarrer contre Reims, il ne va pas jouer au moins 45 minutes contre l'Inter de Milan.
Après, là où tu es
doué, excuse-moi.
Oui.
Je pense qu'il y a eu une période du Paris Saint-Germain dans la période Liverpool. Autant Liverpool était sur le point de descendre un petit peu le niveau, que le Paris Saint-Germain était au sommet de ce qu'on peut faire. Mais maintenant, la gestion, elle a quand même été la même. Si le Paris Saint-Germain a été au sommet dans la période contre Liverpool, c'est grâce à la gestion de Luis Enrique, où ses joueurs étaient beaucoup plus frais que les 7 ou 8 meilleurs joueurs de Liverpool étaient beaucoup moins frais que les 7 ou 8 meilleurs joueurs de Paris Saint-Germain.
Bon, on peut lui faire confiance quand même, parce que jusqu'à présent, la gestion de l'effectif, on peut pas dire que ce soit là-dessus qu'il est péché, Luis Enrique.
Il y a toujours une infirmerie qui est vide, on le rappelle. Il y a que Presnel Kimpembe qui est un peu un cas à part depuis le début de saison, qui lui est blessé et qui a malgré tout participé d'ailleurs à la cérémonie d'hier soir, mais pour le reste aucun forfait.
C'est quand même dingue, non?
Après mais c'est pareil, surtout que encore une fois, en tant que suiveur du PSG, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas reçu de bilan médical, chose qu'on n'a jamais vue les années précédentes, et que quand on voit hier soir, ça peut paraître anecdotique, c'est 5 changements, Beraldo, Zaïre Emery, Mayulu, Doué, Ramos, c'est-à-dire que même dans ces moments-là, il pense à ça. C'est vraiment dire à quel point c'est poussé, et il ne s'en cache pas. Il dit on a une application qui nous permet de calculer les temps de jeu des uns et des autres, de faire une répartition claire, et aussi
après il peut se le permettre aussi par rapport à la qualité de l'effectif,
il y a la profondeur de banc,
et puis aussi l'avance considérable qu'il a eu en championnat dans la gestion d'effectifs. C'est surtout il a pas tout bien réussi, mais c'est surtout depuis les 3 derniers matchs de poule où ils ont gagné 3 fois. Et après, comme disait le coach, là sur la deuxième partie, physiquement ils ont été impressionnants. Il y a surtout une période de 2 mois où physiquement et dans le jeu, ils étaient imbattables.
On parlait toujours du Paris Saint-Germain injouable.
On va demander à Mickaël qui est avec nous au 32-16 sur RMC ce qu'il en pense. Salut Mickaël, bienvenue.
Salut tout le monde.
Salut, c'est Mickaël.
Comment ça va?
Ça va très bien, Mickaël. Et toi?
Bah moi ça va, on ne peut mieux.
On peut mieux.
En tant que supporter du Paris Saint-Germain, on ne peut mieux.
On ne peut mieux, avec des semaines qui se profilent réjouissantes également. Cette gestion de Luis Enrique, t'en penses quoi? Toi, il n'y a pas grand chose à dire quand même, gestion est effective.
Non, voilà, c'est ce que je disais à votre collègue Adrien tout à l'heure en antenne, c'est que franchement, on peut chercher, mais c'est quand même le coach qui nous a amené une cohésion d'équipe. Il a été effectivement droit dans ses bottes, il a respecté ses idées, même quand ça n'allait pas très bien, il a su imposer cette tactique avec ce faux neuf, avec ce repositionnement de Dembélé. Il arrive aujourd'hui avec un groupe soudé, uni, comme on n'a jamais eu au Paris Saint-Germain auparavant. Il arrive avec un effectif complètement, comme vous l'avez justement dit, sans blesser, ce qui est assez rare. Je vous souvenez des années précédentes, j'en suis sûr, avec à chaque fois Mbappé blessé au moment cruciaux de la saison. Et là, on a un investissement total du groupe, un turnover qui fonctionne, des joueurs qui ont envie de gagner ensemble et d'aller au bout ensemble. Donc je pense que tout ça, c'est honnêtement, on peut chercher la petite bête. Je n'ai toujours pas trouvé, même depuis le début de saison, même j'avais participé à vos émissions déjà et on me posait la question sur Enrique, mais honnêtement, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui. Mais j'espère que ça va aller au bout.
Excuse-moi de te couper. Je ne vais pas, me permettre de lui reprocher quoi que ce soit, mais j'ai la prétention de pouvoir dire qu'un match de football, ça tient vraiment très souvent à pas grand-chose. Donc le même Luis Enrique, si par exemple les tirs au but contre Liverpool se terminent avec pas les deux exploits de Donnarumma, si Aston Villa à la 93e minute, ce joueur d'Aston Villa que je me rappelle plus le nom, même s'il le fait exprès de rater cette tête, c'est tout simplement impossible. Donc on est bien d'accord qu'on est passé du côté de Paris Saint-Germain par 2 trous de souris, mais ça fait pas. Ça fait partie du football.
Si je peux me permettre de te couper, je me permets de te rappeler les dernières saisons du Real Madrid où on encense le Real Madrid, où on dit le Real Madrid n'est jamais mort, À la dernière minute, ils arrivent à remonter des matchs incroyables. Ils finissent champions d'Europe et on a tous encensé le Real Madrid d'Ancelotti et on a félicité Ancelotti. Je pense que le football, comme vous l'avez justement dit, c'est effectivement jusqu'à la dernière minute. Il y a une grosse part de chance pour justement sacrer une équipe aujourd'hui pour aller au bout de la Ligue des Champions. Il faut de la chance. Mais je pense que la chance, ça se provoque et ça se mérite. Et je crois que Luis Enrique et son staff et le Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont construit autour, ils ont provoqué ça, ils ont provoqué cette chance. Et aujourd'hui, ça tourne à notre faveur. Et je pense qu'il ne faut que se réjouir d'avoir ça aujourd'hui au Paris Saint-Germain.
Mmh. Mais là, on est bien d'accord.
Tu peux y voir des signaux aussi qui font que c'est peut-être l'année aussi où justement c'est la bonne pour eux. Parce qu'en termes de jeu, on se rappelle du match aller contre Liverpool. Bon, c'est incroyable qu'ils perdent ce match. Et finalement, oui, tu vas au tir au but, mais sur la double confrontation,
c'est la période où on a le Paris Saint-Germain tout simplement injouable, avec des joueurs qui courent de tous les côtés, et un Liverpool qui était quand même un petit peu en baisse. Mais si par exemple, et je termine là-dessus, si par exemple le Paris Saint-Germain se fait éliminer contre Liverpool, on va dire avec les si, etc. Non, mais laisse-moi terminer. C'est que on aurait quand même reproché au Paris Saint-Germain d'être tombé contre Liverpool, parce que si t'es tombé contre Liverpool, c'est parce que tu nous fais les tours préliminaires catastrophiques où Luis Enrique, qui est un entraîneur extraordinaire, a quand même perdu 9 matchs en Champions League depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un record.
Dimanche 18 mai, le prochain rendez-vous, c'est samedi prochain pour Paris. Le programme, Arthur, en quelques mots, là, des joueurs à venir.
2 jours de repos accordés par Luis Enrique, aujourd'hui et demain. Donc, ce dimanche, les joueurs profitent en famille. Certains ont organisé des déjeuners groupés, notamment le clan des Brésiliens. Il y aura une reprise de l'entraînement mardi à 17h. Donc, on peut même dire que ça fait presque 3 jours de repos pour les joueurs parisiens. Il y aura un média day très important mercredi avec entraînement, conférence de presse et une interview avec un joueur que vous pourrez entendre sur RMC évidemment et retrouver sur rmcsport.fr.
Eh ben super, merci Arthur.
Mais moi je change pas, le boulot il est tellement fait avec beaucoup de sérieux et de compétences que mon souci numéro 1 pour moi c'est que Dembélé ne se blesse pas.
Allez, on va croiser les doigts évidemment pour le PSG. Merci beaucoup Arthur Perrault, merci Michael, salut, à bientôt sur RMC. Et messieurs, on reste ensemble, Seb Piocel et coach Courbis, on poursuit la discussion sur la Ligue 1, bien sûr. On va parler de Nice dans un instant. Est-ce que c'est une surperformance pour les Niçois de finir quatrième ?
RMC, Intégral Foot,
Marina Lorenzo.
Jusqu'à 19h avec Seb Piocel, avec coach Courbis, pour revenir sur les enseignements de cette dernière journée de Ligue 1. On va parler de Nice, quatrième place. Est-ce une surperformance dans un instant? Mais avant cela, c'est un jour de finale. 2 finales sont en cours. Finale de handball, tout d'abord la Coupe de France entre Montpellier et le PSG Handball. Arnaud Valadon.
Et peut-être une finale pleine de surprises, puisqu'à 18 minutes de la fin, c'est Montpellier qui mène de 2 buts, 23-21, avec un exceptionnel Ahmed Hecham, l'Égyptien, 8 buts. Et c'est Desbonnets dans la cage qui vient d'arrêter un pénalty. Cette fois-ci, le 7 mètres de Sibchak est dedans et Paris revient à un petit but. 23-22 et 17 minutes encore à jouer.
Et c'est toujours serré dans cette finale de Coupe de France. Ça l'est également dans la finale du Masters 1000 de Rome entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, n'est-ce pas, Eric Salio?
Ah, c'est une très, très belle finale, indécise, 5 jeux partout, une seule balle de break, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, elle était pour Alcaraz, elle a été sauvée par Sinner. J'ai l'impression que ça va jouer au tie-break parce que les deux joueurs sont extrêmement solides avec leur mise en jeu.
Allez, on revient au foot, à la Ligue 1, à cette quatrième place pour Nice, synonyme de barrage de Ligue des Champions. Nice qui finit à un point du podium avec 66 points, réaction du coach Francaise hier.
Elle est belle parce que vous savez aussi bien que moi, vous nous avez suivi toute la saison, par où on est passé quand même, par des moments plus compliqués, voire très compliqués même. Mais d'être là, quatrième, avec quand on voit bon les équipes qui sont devant, c'est une chose, puis aussi les équipes qui sont derrière. Mais on est quatrième, avec 60 points, avec beaucoup de buts marqués. Ouais, c'est une vraie satisfaction, ça c'est sûr, vraiment.
La vraie satisfaction de Francaise. Et ce qui est génial avec la radio, c'est qu'on entend dans la voix la fatigue de ses coachs. On a entendu Didier Digard. Alors certes, il n'a pas dormi du tout, mais alors Francaise aussi, il a l'air fou. Il n'y a plus d'énergie dans son voix, Seb.
Ouais, forcément, ça a été une saison épuisante pour lui et son staff. Ils ont joué énormément de matchs et bon, finalement, ils se sont mérités cette quatrième place.
Oui, elle est méritée pour toi justement. C'est la question qu'on
se pose. Ils se sont mérités. Ouais. Moi, j'aurais pas misé sur eux. Même il y a encore 3-4 semaines, je voyais plus un Lille par exemple avoir les épaules pour être quatrième. Maintenant, ils ont mieux terminé que les autres. D'ailleurs, très fort hier soir face à Brest. Mais c'est vrai, quand on voit comment ils ont galvaudé cette saison la Coupe d'Europe, la toute petite Coupe d'Europe, là ça va démarrer. Très très tôt, certainement début août, si je ne me trompe pas.
5-6 août, premier barrage.
Donc forcément, c'est une préparation complètement différente, sachant qu'il y a aussi beaucoup de doutes au niveau du propriétaire du club. Donc voilà, c'est sûr que bon, déjà, c'est pas le coacher là, c'est pas un métier de tout repos avec la pression qui va avec, mais il doit y avoir quand même un sacré soulagement, même si cette quatrième place, elle est un peu bâtarde quand même, parce que on sait pas trop, c'est un peu le flou, on sait pas trop où on va aller, même notamment dans le recrutement.
Ça peut être un cadeau empoisonné, cette quatrième place, synonyme de barrage de Ligue des Champions. Je veux dire que c'est pas fait, la Ligue des Champions.
Il y a eu une explication de Hez avant le match, justement, sur cette formule cadeau empoisonné. Empoisonné, oui, mais à partir du moment où tu as encore une chance, avec les tours préliminaires, on a vu du côté de Lille, même si après, au mois de mai, tu es obligé de payer tous ces efforts par des joueurs fatigués, voire des joueurs qui se blessent plus facilement que d'autres. Mais bon, pour ce qui est des Niçois, ils vont avoir la possibilité de pouvoir jouer les tours préliminaires et avec aussi deux matchs de barrage. Et dans le cas que ça se passe pas bien, tu fais quand même l'Europa League.
La Ligue Europa.
Des trucs empoisonnés, j'en ai vu des pires.
D'ailleurs, Jean-Pierre Hivert, le président de l'OGC Nice, a dit dans Stephen Brunch qu'il prévoyait un budget Ligue Europa. Donc voilà, on c'est ce qu'on prépare dans le board niçois.
Ouais, mais maintenant il n'a pas le choix non plus.
Donc voilà. Merci. Donc l'actionnaire qui est en cours de saison, tu vois, sur le plan psychologique, c'est très intelligent. Dit non, ça m'intéresse pas. C'est pour moi un cauchemar d'aller voir jouer cette équipe de Nice. Mais il se rappelle quand même qu'il a mis une fortune dedans. Peut-être une fortune, pas pour lui, mais pour la plupart des gens.
C'est peut-être ça qui est éprouvant, parce que effectivement, c'est la première saison pour Franck Hez. On parlait tout à l'heure de la cohésion qu'il pouvait y avoir dans l'équipe du Havre et qui leur a permis de se maintenir. C'est pas une cohésion qu'on retrouve partout. Et effectivement, cette différence de communication parfois entre les actionnaires et les ambitions.
Ils ont été très irréguliers. Alors, bien sûr qu'il y a eu cette fenêtre européenne où. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on l'a vu, alors moins cette saison, mais des clubs français qui s'arrachent pour se qualifier en Coupe d'Europe et qui sont pas ridicules, mais
qui arrivent. Voilà, ils ont terminé avant-dernier. Hein.
Et quelque part, ça reste des matchs de compétition. Et dans ta saison, forcément, tu perds de l'énergie, tu perds confiance. Alors oui, tu peux faire participer un peu plus ton groupe. Et je pense qu'il avait une certaine pression aussi en arrivant à Nice. Il changeait aussi de cadre. Il était vraiment installé à Lens, donc il faut aussi, je pense, une période pour s'habituer. Même s'il est avec des personnes cohérentes, à l'image de Florian Maurice au-dessus. Mais oui, forcément, c'est éprouvant. Mais je pense qu'il y a une réelle quand même satisfaction de terminer quatrième devant des équipes comme Lille ou Lyon.
Oui, on parlera de Lille et Lyon.
Et puis forcément qu'ils vont jouer ce tour préliminaire puis les barrages s'ils passent à fond.
Et autre chose aussi qu'ils ont quand même eu à subir, donc ces blessures.
C'est énorme.
Des blessures de joueurs importants. Et dernièrement, là, il y a eu deux... Les croisés.
Ouais. Donc, Daï Chimier, Terem Moffi, Sanson, fracture à la cheville. Effectivement, ça a été beaucoup de blessures et des blessures graves. On parlait tout à l'heure du PSG, la gestion de cet effectif. Là, ça doit être certainement une des questions qui doivent se poser, les Niçois. Comment faire en sorte pour que la saison se passe mieux à ce niveau-là, au niveau médical?
Ouais, il y a toujours des choses à améliorer. Ils vont se servir aussi de ce qui s'est passé dans la saison pour faire mieux. Je trouvais quand même que, en termes d'effectifs, malgré les blessures, qu'ils avaient un effectif, hyper intéressant, notamment au milieu et devant, avec pas mal de cartouches offensives. Maintenant, pour moi, en championnat, ils ont su performer. Enfin, ils sont.
Oui, c'est ça.
Enfin, je dis pas qu'ils sont pas à leur place, parce qu'encore une fois, ça se mérite. Mais il y avait peut-être des clubs mieux armés que eux pour se retrouver là. Donc c'est une très belle quatrième place pour les Aiglons.
Ouais, très belle quatrième place, à voir ce qu'ils en font maintenant, voir déjà dès le début août effectivement si c'est la Ligue des Champions, si on est reversé en Ligue Europa pour les Aiglons. Il y a des joueurs également qui arrivent à des âges très avancés. Balle de 7 entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, finale du Masters 1000 de Roland Garros. Ouais,
beaucoup de fautes directes là de la part de Carlos Alcaraz qui semble subir la pression. Donc 6-5 Sinner et 15-40 sur la mise en jeu de l'Espagnol qui n'a pas passé beaucoup de premières balles et j'ai l'impression que Sinner a trouvé les bons réglages en retour de service. C'est vraiment au moment le plus important de cette manche, alors qu'il avait été peut-être légèrement dominé sur le nombre de points. Première balle de cette sauvée par Alcaraz avec une excellente première balle. C'est vital hein, pour l'Espagnol de retrouver sa première balle. Donc on va suivre la deuxième hein, dans quelques secondes. Ça va vite. Hein, et maintenant, il y a un chrono hein, pour éviter que des joueurs comme Nadal notamment prennent un temps infini pour réfléchir à la stratégie. Donc 30-40, deuxième balle de set à venir pour Yannick Sinner face à Carlitos qui donc sert côté gauche. On va voir son choix tactique. Première balle, out. Assez nettement. Attention, il est en panne de première là. Gros danger. Puis vous savez que le Foro Italico, ils savent mettre la pression. Là, il y a des murmures, j'imagine, dans la foule. Deuxième balle de service sur le revers de Sinner. Alcaraz qui a l'ouverture. Non, il n'ose pas y aller franchement. Donc il va s'appuyer sur son coup droit. Il trouve la longueur, mais Sinner pour l'instant tient bien l'échange. C'est un long rallye. Oh là là, Sinner part à la faute. Oh, celle-là, il va la regretter. Donc 6-5-40 à Marina.
Allez, bon, on suit ça avec toi toujours, Eric. Petite pause et l'intégrale, le foot revient et on continue de suivre, bien sûr, cette finale du Masters 1000 de Rome et la finale de la Coupe de France de handball également. À tout de suite.
RMC, intégrale foot.
Marina Lorenzo.
Avec Seb Piocel, avec coach Courbis, avec également deux finales en cours. La finale de la Coupe de France de handball. Tout d'abord, un petit point avec toi, Arnaud Valadon.
Oh, c'est peut-être la surprise. Montpellier devant à 10 minutes de la fin et en supériorité numérique pendant 1 minute 50, 27-25. Benjamin Richard qui arrivait il n'y a même pas quelques semaines en provenance de Chambéry, tellement il y avait de blessés, notamment au poste d'ailier, vient de marquer un nouveau jet de 7 mètres et donc plus 2 pour Montpellier, 27-25. Et on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes ici à Bercy.
Merci Arnaud Valadon. La finale du Masters 1000 de Rome également en cours. On fera un point dans un instant. Yannick Sinner a perdu quelques balles de 7 dans la première manche, donc on y revient avec Eric Salio dans un instant. Bartoli Time, n'oubliez pas, 19h-20h avec les deux invités du jour, Patrick Mouratoglou et également Jean-Michel Roussier, le président du HAC qui s'est donc sauvé, qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. On a parlé avec Didier Digard, l'entraîneur, là c'est le président qui sera avec Marion Bartoli tout à l'heure. Allez, place à notre discussion, Seb et coach Courbis, autour du LOSC. Est-ce que le LOSC doit se contenter de la Ligue Europa? Le LOSC qui a donc terminé 5e de ce classement, qui est dans le top 5 pour la 6e fois en cette saison, mais ils auraient pu l'accrocher cette 4e au moins. C'est là que tu penses, toi, celle qu'ils auraient dû terminer, les Lillois?
Ils auraient dû, je pense, par rapport à l'effectif, par rapport à l'expérience qui est la leur maintenant, justement d'être régulièrement en Coupe d'Europe. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont commencé très très tôt leur saison, donc forcément des matchs supplémentaires. En plus, un très très beau parcours en Ligue des Champions qui puise énormément chez les joueurs. Et puis voilà, sur une période où contre des adversaires qui étaient largement à leur portée, je pense d'ailleurs à un match un peu déclic là où ils perdent contre le Havre à domicile. Ils ont manqué le coche, mais malgré tout, je pense qu'ils avaient le potentiel pour être à cette 4e place. Maintenant, dans la grandeur de ce club-là, le fait d'être régulièrement en Coupe d'Europe, même si c'est l'Europa League, ça leur permet de continuer à grandir. La seule question que j'ai aujourd'hui, c'est le tournant qu'ils vont prendre à l'intersaison avec beaucoup de joueurs qui vont partir, des joueurs notamment comme Jonathan David. Donc c'est comme Rémi Cabella, même si c'était moins un titulaire indiscutable, c'est quand même des joueurs, Angel Gomez. Voilà, ils vont devoir se réinventer un petit peu. Et ne pas manquer là, ce tournant-là.
Oui, on va continuer d'en parler de cette équipe lilloise. Coach, tu vas nous dire ce que tu en penses dans un instant. Juste, Eric Salio avait raison, ça se joue au tie-break, la première manche de cette finale du Masters 1000 de Rome entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Hein. C'est ouais. Bien ça, Eric.
Hein. Il a donc sauvé deux balles de 7, Carlitos, et il mène 2-0 au début de ce tie-break.
Allez, le tie-break à suivre avec toi, Eric Salio. On revient sur cette équipe du LOSC. Et la déception de Benjamin André, on va l'entendre quand même, parce que hier, à l'issue de cette saison, eh bien, voilà ce qu'il a déclaré.
C'est une vraie déception parce que je pense qu'il y avait, moyen de l'accrocher sur l'ensemble de la saison. Après, on a vu que toutes les équipes, finalement, se tiennent en, très peu de points et vu le nombre de matchs joués, vu l'énergie dépensée, vu les coups durs qu'on a pu avoir aussi durant la saison, je pense que voilà, c'est terminé cinquième de ce championnat en Europa League. Évidemment qu'on aimerait toujours finir plus haut, mais voilà, il faut aussi être, faut regarder un petit peu derrière, faut regarder tout ce qui a pu se passer durant la saison et se dire que on peut être quand même fiers. Ouais.
On peut être quand même fier, mais on reste sur une déception en tout cas pour Benjamin André. C'est normal de quand on est joueur du LOSC aujourd'hui. Est-ce que c'est normal d'être déçu de cette cinquième place ?
Il y a déçu et déçu dans le sens que tu peux être déçu, notamment quand tu sais que pour la Coupe de France, après avoir éliminé Marseille, tu prends un but à la 96e minute de Dunkerque, alors qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes, mis à part le Paris Saint-Germain, qui pouvaient t'empêcher d'aller en finale, si évidemment tu ne rencontres pas le Paris Saint-Germain avant, où là c'était compliqué. Et ensuite, de se dire que malgré tous les matchs qu'on a pu jouer, qui ont augmenté les risques de blessures, tu as un garçon comme Zegrova, qui est pratiquement un des meilleurs pour moi de notre championnat, qui malheureusement ne joue plus depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Alors c'est vrai que tu peux avoir des regrets, mais malgré ce, la saison, elle est quand même énorme, avec beaucoup de satisfaction. On va attendre avec beaucoup d'impatience et beaucoup de curiosité ce qui va se passer du côté de Nice, de Lille, parce que n'oublions pas que David, on en parle,
oui.
Mais dans l'effectif, dans la complémentarité indispensable de certains joueurs, on a vu aussi ce pauvre, entre guillemets, David, jouer des fois des 95 minutes, parce qu'il n'y avait pas la solution dans l'effectif de pouvoir se partager le boulot. Cette solution, elle a été trouvée là sur les 2-3 derniers mois avec le joueur qui est arrivé au mercato d'hiver. Donc non, pour moi,
ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Ah ben,
ils pouvaient pas faire mieux. C'est ça que tu veux dire.
Ah ben, disons que là, on parlait tout à l'heure de la trentaine de matchs qu'ont pu faire les joueurs marseillais. Eux, bientôt, c'est la soixantaine de matchs qu'ont pu faire les joueurs de Lille entre la Coupe de France, un peu plus que Marseille, les tours préliminaires, les matchs de barrage, plus les matchs de Champions League. Et que malgré tous ces matchs-là, tu arrives et tu te débrouilles de terminer cinquième, ben moi je suis obligé de leur dire bravo.
Non, je comprends aussi ce que dit Benjamin André, parce que quand tu goûtes à cette compétition, en plus ils ont fait un très très bon parcours, t'as envie d'y retourner. Et tu te dis que voilà, bon après tu te remémores les quelques faux pas. Enfin moi je continue de penser qu'ils avaient et l'expérience et l'effectif pour être au-dessus d'un club comme Nice là à la fin de la saison. Maintenant ils ont encore un axe de progression et je le redis le virage qui va être pris là avec tous les changements, tous les joueurs importants qui sont là depuis un moment. Il faut voir comment ils vont le gérer. Ça aurait était peut-être plus facile avec la Ligue des Champions.
Si je suis supporter de Lille, j'ai un grand point d'interrogation qui m'inquiète. C'est pas le départ de David. David, j'ai dit bravo.
C'est le départ de Genesio.
Merci. Non.
Non.
Chevalier.
Ah oui, de Chevalier, du gardien Lucas Chevalier.
Ça, c'est ma grosse inquiétude, si je suis supporter de Lille.
Et justement, on va en parler dans un instant avec Marvin, mais avant cela, on va écouter Bruno Genesio, parce qu'il n'est pas du tout certain de rester Bruno Genesio. On va écouter sa déclaration hier, et après on en parle tous ensemble avec Marvin également.
Un contrat jusqu'en 2026, les contrats sont là pour être honorés. Il y aura un bilan de fait, c'est le cas dans tous les clubs, parce que nous, entraîneurs, on a besoin d'avoir des réponses à certaines questions, et donc il y aura un bilan qui sera fait rapidement avec ma direction, pour savoir quel sera le LOSC de l'année prochaine.
C'est un peu toujours les mêmes sons de cloche qu'on entend en fin de saison, forcément. Attendre de faire le bilan, attendre de savoir comment ce qui va se passer la saison prochaine pour savoir si on poursuit dans cette aventure. On va accueillir Marvin, si vous le voulez bien, au 32-16. Et puis comme ça, on peut en parler tous ensemble. Salut Marvin, bienvenue.
Merci, bonsoir à tous.
Salut Marvin.
Supporter du LOSC, bien sûr. Genesio, pas Genesio. Toi, t'es sur quelle tendance ?
Moi, non. Alors,
toi, non ?
Non, parce que alors c'est sûr qu'en termes de points, tout ça, on est très bien. On a joué je ne sais combien de matchs. Je pense qu'il n'a pas été aidé du tout sur le mercato minimum hivernal. Moi, c'est surtout dans le contenu où je me pose des questions, notamment sur Genesio et sur une deuxième année. Genesio à Lyon, plusieurs années, ça a toujours été compliqué. À Rennes, pareil. Moi, quand je regarde l'année 2025, avant même Dortmund, en Ligue 1, on s'ennuie mais à mourir en regardant le LOSC. Oui. On s'ennuie. Moi, j'ai l'impression de revoir le LOSC de Gourvennec, sauf que là, on avait de la chance, c'est d'avoir... On gagne des matchs, mais dans le jeu, je me trouve triste. Alors, je veux bien entendre que l'effectif... On a des joueurs fatigués. Je peux entendre la critique envers la direction. De toute façon, c'est même pas les dilettants qui décident, c'est au-dessus, mais on sait que l'actionnaire du club, il cherche juste à faire son argent, et s'il peut vendre le club, il va le vendre. Ils sont pas dans l'ambition qu'on soit un grand club à Lille. Moi, ça me fait vraiment, vraiment peur.
Ouais,
et quand j'entends qu'on dit que l'effectif est meilleur que Nice, moi, je dirais non.
Mais on peut avoir un bon effectif et que le jeu produit ne te plaît pas,
je te trouve dur, justement. Tu t'as dit dès le départ qu'ils avaient une saison à rallonge, donc ça peut aussi l'expliquer. Le coach tout à l'heure parlait de Zegrova, et là quand on parle un peu de joueurs un peu différents qui sont capables de faire des différences à tout moment et qu'il n'est pas là depuis sur la deuxième partie de saison, forcément il faut aussi se réinventer.
Et pour Zegrova, sans exagération, c'est le Lamine Yamal de Lille.
Ouais, et puis, coach, pardon, je vous coupe un instant. Balle de 7 pour Alcaraz, c'est ça, Eric Salio?
Oui, balle de 7 pour Carlos Alcaraz qui mène 6 points à 4 dans ce tie-break, et surtout il est au service, donc là il y a un gros avantage. Tout à l'heure il a commis une double faute, mais cette fois-ci il n'y a pas de bêtise de la part de l'Espagnol, donc Sinner, grosse pression, il essaie de tenir l'échange, c'est lui qui mène la barque, mais attention, il joue très très long, il va réussir je pense à remporter ce point. Voilà, c'est fait, balle de 7 sauvée par Yannick Sinner, donc 6 points à 5 pour Arkarlitos, et c'est Sinner qui va servir. C'est un premier set extrêmement serré, mais ça ne m'étonne pas parce qu'ils ne veulent rien lâcher. On va suivre cette deuxième balle de set peut-être, parce que sur le service de Yannick Sinner, elle est évidemment déterminante, l'Italien qui tout à l'heure a eu des occasions. Mais bon, là c'est vraiment tendu. C'est vraiment tendu, et le Foro Italico retient son souffle. Je rappelle, c'est un stade qui est merveilleux. C'est une sorte d'arène avec des tribunes abruptes. Et là, on sent tout le souffle des tifosi qui va pousser derrière Sinner pour sauver cette balle de set. 6 points à 5 donc pour l'Espagnol. Première balle, elle est dedans de Yannick Sinner. Il appuie avec son coup droit, mais ça ne suffit pas. Défense assez intelligente de Carlitos, qui tient bien la balle, qui emmène Sinner sur son revers. Sinner est en difficulté là peut-être. Attention, ça va se jouer là-dessus. Montée au filet de Carlitos, et c'est une volée amortie, c'est fini. 1-7-0 Carlitos, fantastique balle de 7. Voilà, le sommet on le tient, et un avantage déterminant peut-être pour Carlos Alcaraz. 1-7-0.
1-7-0 pour l'Espagnol face à Yannick Sinner. Merci Eric Salio. On revient au LOSC. Tu disais, Seb, à Marvin qui est en ligne avec nous au 32-16, que où tu le trouvais un petit peu dur sur...
Sur Genesio. Ensuite, partout où il est passé, il a quand même eu des résultats. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'équipes qui me font vibrer dans le jeu, dans le championnat de France. Donc, j'ai envie de dire qu'ils sont sur du classique. Je te trouve dur avec ton club. Et
mais vous avez regardé tous les matchs de Lille?
Moi je
les ai regardés,
tous les matchs de Nantes.
Je peux vous assurer que 2025, si on voulait dormir tôt, il fallait regarder le match. Et pourtant j'aime mon club, mais je peux vous assurer c'était catastrophique. Mais j'en veux aussi, moi c'est à la direction. Comment on peut, le recrutement, c'est que Santos out, Zegrova out, le seul joueur qu'on recrute c'est qui? Pomme, un attaquant, alors qu'on avait même Bayou qui n'était pas exceptionnel, mais on avait un attaquant pour le traiter. Moi, c'est sur la direction. Quand on sait que si Alessandro est déjà quitté son palo, les remplaçants, c'est Mandy et potentiellement Umtiti. Là, par contre, moi, j'en vais normalement la direction. C'est qu'on n'avait pas un effectif pour espérer mieux. Moi, je trouve ça même inespéré, la cinquième place au vu de 2025.
Mais c'est vrai, quand il dit Bruno Genesio, j'ai besoin de réponse, je pense que ce dossier-là, effectivement, de l'attaquant en fait partie. Coach Courbis, tu trouves que Marvin est un peu dur aussi avec cette équipe de Lille? Ce que tu as vu, toi, dans le jeu et dans le contenu, qu'est-ce qui
t'a... Ouais, un petit peu dur, oui. Ouais. Mais bon, peut-être j'ai une petite faiblesse pour ce Zegrova. Je le trouve tout simplement extraordinaire, et il change quand même beaucoup de choses quand Lille a le ballon. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu cette accumulation de matchs. Donc, je reconnais qu'il a raison, il y a certains matchs. Et notamment, là où j'étais très déçu, moi, c'est le match retour contre Dortmund. Là, je pensais que le plus dur était fait. Et voir ce match de Lille, de match retour, si j'avais été obligé de donner une note, je sais pas quelle note j'aurais pu donner. Mais bon, c'était un match raté. C'est vrai que c'était un match plus qu'important, qui aurait pu faire une saison tout simplement extraordinaire pour les Lillois. Maintenant, on va attendre un petit peu avec curiosité le recrutement, mais que Lille puisse jouer l'Europa League, C'est ça, c'est l'Europa League.
Oui, cinquième, hein. Ouais.
Bah, je trouve que c'est quand même pas mal du tout.
Ouais, c'est plutôt cohérent. Bon, et bah écoute, merci beaucoup, Marvin. Bon, on te souhaite que la saison prochaine te donne plus de plaisir avec le LOSC.
Puis Lens est bien derrière, c'est bien.
Est-ce qu'on est d'accord?
Ouais, ça c'est une victoire.
Est-ce qu'on est d'accord sur l'importance de Zegrova? Ou c'est moi qui exagère un peu parce que j'ai peut-être une faiblesse?
Ah non, pas du tout. Mais de toute façon, il jouera plus pour Lille. Ah non, mais bien sûr, c'était le seul joueur qui techniquement pourrait faire des différences à lui seul. Et même le fait qu'il vienne perforer comme il aime bien rentrer, ça libérait beaucoup d'espace.
Ouais, t'as eu des bonnes périodes avec Haraldsson aussi quand même, même s'il a été un peu moins bien.
Haraldsson, je trouve que alors il fait une meilleure saison que l'année dernière. Je trouve après qu'on s'enflamme beaucoup sur lui. Après, c'est par rapport au niveau de l'équipe, niveau offensif, on le voit un peu plus beau. Mais c'est pas un joueur non plus exceptionnel. C'est un bon joueur de foot. Mais à la base, ça doit être un second couteau. Personnellement, après, comme je suis certainement dur, mais c'est peut-être parce que voilà. Moi, je me souviens des années avec Lille. Galtier, on avait quand même une identité. Fonseca, n'en parlons pas. On avait des vraies identités de jeu. Je veux dire, avant Lille, on disait vraiment qu'on avait une identité de jeu. Là, moi, je ne l'ai pas retrouvé, surtout en 2025. C'est surtout ça, moi, qui me gêne beaucoup.
Merci.
On a beaucoup joué sur les individualités.
Merci beaucoup, Marvin. Merci d'avoir été avec nous sur RMC.
Salut, Marvin.
Salut, à bientôt sur RMC. La finale du handball, c'est chaud. La finale de Coupe de France entre Montpellier et le PSG, Arnaud Valadon.
Les 15 dernières secondes, égalité parfaite, 28 partout, mais ballon pour Paris. Paris qui était mené de 2 buts à 3 minutes de la fin et Montpellier est en train de s'effondrer. Ils avaient le ballon pour repasser devant dans la dernière minute, mais ballon perdu. Et là, c'est Paris. 16 secondes au chrono, 28 partout, mais ballon pour le PSG qui peut revenir presque d'une situation totalement désespérée. Ils étaient sur un fil, le ballon pour les Parisiens. La dernière possession, elle sera pour le PSG. Il n'y a pas encore de bras levés pour jeu passif. Les 16 dernières secondes après le coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti. Luke Steins qui a le ballon dans le secteur central qu'on va donner sur Omaria et pourquoi pas Elohim Prandi, l'un des héros souvent du handball français. Elohim Prandi, Yassim Chak qui demande le ballon, Prandi qui va aller provoquer. Il reste 3 secondes, ça va peut-être sentir le pénalty. Il reste 1 seconde, il y a un jet franc, donc ça veut dire qu'il y a une ultime tentative. Vous vous souvenez d'Elohim Prandi en demi-finale de l'Euro en janvier 2024 face à la Suède? Et bien là, il est un peu plus près, il est au 9 mètres, il va avoir une dernière tentative, sinon ce sera séance de tir au but juste derrière. Paris va peut-être s'en vouloir parce que ils auraient pu prendre un tir. Finalement, c'est pas Elohim Prandi, c'est Yaya Omar, parce qu'il est plus grand et qu'on est plus près. Il est à 9 mètres. Tous les défenseurs montpelliérains sont à 6 mètres pour ce dernier jet franc. Ça serait un exploit s'il arrive à marquer là, l'Égyptien, parce qu'il y a un mur de joueurs montpelliérains face à Desbonnets. Et non, ça serait une séance de tir au but. 28 partout, séance de tir au but à venir pour déterminer le vainqueur de cette Coupe de France.
Oh là 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 là, l'angoisse, la séance de tir au but. Arnaud Valadon va suivre vivre ça avec toi, bien
pas
sûr. Pas de prolongation. Donc, toute petite pause et on revient, bien sûr, pour suivre ça. Hello à la finale du Masters 1000 de Rome. Également avec Eric Salio, à tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Marina Lorenzo.
À toujours avec Sébastien Piocel, avec coach Courbis, avec cette finale de Coupe de France de handball très très chaude. La séance de tir au but est imminente. On va suivre ça avec Arnaud Valadon dans un instant entre le Montpellier handball et le PSG handball. Ça va être chaud pour déterminer qui va remporter ce trophée.
Au tir au but, tu sais qui c'est qui gagne.
Au tir au but, on sait qui c'est qui gagne. Ah bon, toi tu sais, coach?
Non, je pense au football.
Le tennis, c'est fini le foot, on va, parce que là il y a deux événements très très chauds. La finale du Masters 1000 de Rome également, Eric Salio. On est dans la deuxième manche.
Il n'y aura pas de tir au but chez moi.
Il n'y aura pas de tir au but.
Peut-être un tapac du troisième. En tout cas, il a ballotage favorable pour Carlos Alcaraz qui mène 7-6, 1-0. Pas de break dans le deuxième.
Eh oui, ça a été très serré ce premier set. Effectivement, l'Espagnol a fini par le remporter au tie-break. On va en voir maintenant l'issue de cette finale de Coupe de France de handball. Cette séance de tirs au but incroyable entre Montpellier et le PSG handball. Arnaud Valadon, c'est à toi. Rappelle-nous juste combien de tirs au but au handball là.
C'est comme le football, c'est en 5 et 5 et ensuite si on est toujours à égalité, sachant qu'on rajoute, c'est la subtilité, les tirs au but au score de 28-28, score d'égalité, et ensuite ça sera mort subite. Je ne sais pas si coach aura le même feeling qu'avec les tirs au but football. Šipčák face à Bolzinger, le grand polonais, et c'est dedans. Côté bras, le Paris Saint-Germain qui vient de démarrer cette séance de tirs au but, et donc avec son grand tireur polonais, il y a eu un gros duel de feinte hein, face à Charles Bolzinger, le gardien international, et donc Paris qui mène dans cette séance de tirs au but. La réponse désormais pour les Montpelliérains, Yannick Green qui va y aller. Alors l'avantage du handball, c'est que t'as, par rapport au foot, c'est que tu as moins de distance à parcourir,
oui,
pour mettre
rapide
en place. Ça c'est clair que c'est plus rapide. C'est Benjamin Richer, 10 buts, le meilleur buteur de la rencontre, l'ex-chambérien qui se présente gaucher face à Yannick Green. Oh là, arrête Yannick Green, il l'a fait sans fin, Benjamin Richer. Il avait été impeccable dans cet exercice et il manque le deuxième tireur qui manque. Je sais pas ce qu'on pense coach, si ça sent bon pour Paris.
Tu sais qu'il paraît qu'ils ont fait un petit peu les calculs au niveau des stats. L'équipe qui termine en premier, c'est, 51-52% de plus de chances de gagner les tirs au but.
Solé pour les Parisiens. Oh, Desbonnet qui se plaint en disant qu'il a bougé son pied d'appui, mais c'est accordé. Et donc, ça fait 2 pour Paris dans cette séance de tirs au but. Qu'est-ce qui se passe? Ça discute au niveau des arbitres. Est-ce que il est bien accordé? Ah, il a fait un double appui.
Oui.
Et attention, les Montpelliérains, ils sont en train de montrer l'écran géant à l'arbitre pour dire attention, il n'avait pas le droit de bouger son pied d'appui. Une fois qu'il est ancré au sol, il ne doit pas bouger. Et donc, ça va être pour l'instant, le pénalty, le tir au but est accordé. Grosse pression sur les arbitres qui vont aller voir la vidéo pour voir si ce tir au but va être annulé ou pas. Donc, pour l'instant, ça fait 2 provisoirement pour Paris, 0 pour Montpellier.
Et si c'est ça le règlement, c'est le tir au but qui est annulé.
Oui, ou tir au but annulé, on le retire pas. C'est le but le tir au but est annulé, faute technique, et normalement il n'a pas le droit de le refaire. C'est comme considéré comme si tu avais raté.
Ah oui.
Parce que c'est une faute technique, on n'a pas le droit de bouger l'appui. Vous les voyez, les joueurs qui se mettent sur cet appui à 7 mètres. Si vous êtes droitier, eh bien vous mettez le pied gauche devant.
Voilà.
L'inverse évidemment, une fois qu'il est ancré au sol, vous n'avez pas le droit de faire d'autres petits pas à côté. Alors des fois ça joue un peu parce que les tireurs vont vers l'avant pour avoir le plus de puissance. Il est refusé.
Mais oui, il a dépassé la ligne en plus, Arnaud. Bien sûr. Tu vérifieras.
Exactement. Et donc Montpellier qui peut égaliser dans cette séance de tirs au but après 2 tireurs. Un échec côté Paris, Solé pour cette faute technique. Richard avait échoué, Sipchak avait marqué. Et donc là, désormais, c'est Fernandez, un autre ailier. Bah, ce sont les joueurs les plus habituels pour tirer ces pénaltys, les ailiers les plus techniques qui se présentent dans cet exercice. Et alors, on a le droit de changer de gardien. C'était Green pour Paris, coach. Et là, on a changé de gardien, on a mis Green, on choisit un petit peu.
Voilà.
Ça fait partie du jeu, évidemment, des coachs. Fernandez Green, face donc, à Palika.
Il a mis la couleur de son nom.
Exactement. Et égalisation du MHB dans cette séance de tirs au but. Un partout, ça fait 29-29. Comme voilà, on rajoute le score de cette séance de tirs au but au score normal. Et donc c'est une égalité. Troisième tireur et premier tireur parisien, c'est Balaguer qui va rejoindre Montpellier hein, la saison prochaine. Il y a aussi Conan qui est à Montpellier aujourd'hui, qui va jouer à Paris. Donc c'était un petit peu ce jeu-là. Balaguer, l'ancien Nantais. Oh, le poteau rentrant, la base du poteau. Et ça rentre pour Paris qui continue de reprendre, qui prend les commandes une nouvelle fois, comme sur le premier tireur par Sipchak. Ça fait 2 pour Paris, 1 pour Montpellier. Mais l'égalisation possible pour Montpellier avec cette fois-ci Ahmed Hecham, l'autre meilleur marqueur, l'Égyptien. Très bon, bonne performance de la part d'Hecham, le droitier, face à Yannick Green. Impeccable, il a croisé. Et donc l'égalisation de Montpellier. Ça fait 2 partout. Il reste 2 tireurs de part et d'autre. La tension est à son comble pour ces deux clubs. Et surtout Montpellier, ça fait depuis 2016 que le MHB n'a plus gagné de trophée, souvent barré par Paris, que ce soit en championnat ou également en coupe. Léo Plantin pour le PSG Handball face à Desbonnet, pleine lucarne. Et ça fait 3-2, tireur montpelliérain à venir pour égaliser dans cette finale de Coupe de France ici à Bercy. Ça remonte à 2011, la dernière finale de Coupe de France qui s'est décidée au tir au but. Pour égaliser, c'est important. Sikoussa, l'arrière gauche de Montpellier, face une nouvelle fois un changement de gardien. Arrête Palika, l'arrêt de Palika là-dessus, ça fait 2-1 pour Paris. On va attaquer les derniers tireurs, ce qui veut dire que Paris a tout simplement le tir de la gagne là-dessus avec Omar Yaya face au grand Charles Bolzinger, le gardien international.
Ouh, magnifique ces arrêts là, handball c'est vraiment spectaculaire, c'est
un bout portant, c'est du réflexe. Ouais. Yaya, l'arrêt de Bolzinger. Oh, oh là là, l'arrêt de Charles Bolzinger là-dessus. Oh, c'est fou. C'est fou cette finale au tir au but. Et Montpellier qui peut donc égaliser et arracher au bout du bout encore un sixième tir. Oh là 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 là, c'est fou cette finale de Coupe de France. Quel suspense, on est totalement, on se régale à Bercy.
Incroyable, Yannick Green dans la cage. Gardiens, incroyable, c'est vraiment vraiment magnifique ces arrêts.
Avoir autant d'arrêts, puis c'est la tension aussi. C'est Diego Simonet, un des joueurs majeurs de Montpellier face à Yannick Green. Diego Simonet, première, deuxième feinte et égalisation pour Montpellier. On va attaquer les sixièmes tireurs. Oh là là, c'est fou. Ce scénario incroyable à Bercy, c'est irrespirable. On est juste à côté des 400 supporters de Montpellier, les Blue Fox, comme on les appelle. Alors là, coach, je ne sais pas ce que tu sens en termes de dynamique.
Plus rien.
Montpellier qui revient. Ah, le handball, ça te perturbe.
Je sens plus rien. J'étais en train justement de réfléchir que c'est pas stupide de faire en sorte que le gardien puisse ne pas rester comme un idiot là sur sa ligne et qu'on
fais ce que tu veux.
Ben ouais. Voilà, ben je trouve que c'est très bien.
C'est sa zone.
D'ailleurs, ils sont très peu à rester sur leur ligne parce que souvent on vise des zones très précises sur les côtés et avec la puissance on bloque moins d'angles évidemment, mais il y a quelques gardiens, on se souvient de Yann Gentil il y a quelques années, là il y a un petit temps mort parce qu'on est obligé d'aller revoir les arbitres pour donner les 5 tireurs suivants et on leur a donné au début et donc là on attend un petit temps mort.
Là,
ça
il doit y en avoir que c'est vraiment pas leur spécialité.
Ah bah je veux pas le montrer, mais un Luka Karabatic, le pivot qui est essentiellement utilisé en défense, le capitaine du PSG. Évidemment là ce sont moins les artistes qui savent évidemment bien manier les effets. Donc on va voir, même si je vais voir le point de règlement, je crois qu'on peut redonner les mêmes. Chaque équipe oui. a le droit, tu peux repartir à zéro, c'est-à-dire que ceux qui ont tiré peuvent retirer.
Allez, tu sais quoi Arnaud, avant que ça se mette en place pour la deuxième séance de 5 tirs au but dans cette finale de Coupe de France de handball, on va faire un petit point sur la finale du Masters 1000 de Rome. Eric Salio, Sinner Alcaraz.
Ouais, et Carlos Alcaraz, il a pris le large. 7-6, 3-0 pour l'Espagnol. On sent bien que le verdict du tie-back du premier set a touché au moral Yannick Sinner. Je rappelle qu'il a eu deux balles de set avant d'arriver au jeu décisif. Et là, on a l'impression qu'il n'y est plus du tout. Et Carlos Alcaraz est en train de réciter son jeu avec des inspirations de génie, comme une Amerti tout à l'heure, qui a totalement planté l'Italien. Donc 7-6, 3-0. J'imagine qu'au Foro Italico, l'ambiance est un peu terne.
Ça doit redescendre un petit peu. N'oubliez pas Bartoli Time, 19h-20h. Patrick Mouratoglou et Jean-Michel Roussier, président du club du Havre qui s'est maintenu en Ligue 1. Voilà pour les invités dans quelques instants, mais on va finir cette finale de Coupe de France de handball à suspense incroyable, cette séance de tir au but qu'on vit avec toi Arnaud Valadon. On a vécu les 5 premiers, égalité parfaite toujours entre Montpellier et le PSG handball. On se prépare pour la deuxième séance
et on peut faire retirer les mêmes tireurs et Ahmed Deschamps. Cette fois-ci c'est Montpellier qui démarre parce qu'on a reprocédé un tirage au sort et donc là Montpellier avec Ahmed Deschamps qui marque, sauf que là évidemment si Sipchak rate, et ben ça sera la victoire de Montpellier dans cette séance de tir au but. On est à 32-31 pour les Montpelliérains. Le score était de 28-28, l'égalité. Donc ça fait 4 tirs au but réussis par Montpellier, 3 par Paris. Et là Sipchak face à Bolzinger, il n'a pas le droit à l'erreur. Camille Sipchak face à Bolzinger, l'égalisation. Oh là 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 là, c'est jusqu'au bout du suspense. Il va falloir y aller, ça va se jouer à rien entre Parisiens et Montpelliérains. Et cette fois-ci c'est Andreas Panica qui va aller dans la cage parisienne. Et le tireur pour le MHB, Diego Simonet, l'Argentin. Oh là là, c'est interminable. On pourrait presque les déclarer co-vainqueurs de cette Coupe de France, mais non. Il faut bien un vainqueur. Diego Simonet qui a réussi son tir au but tout à l'heure. Première feinte sur Panica qui est sorti de ses appuis. Le poteau rentrant, la réussite. Il y a quand même beaucoup de réussite, Marina et coach du côté de Montpellier. Hein. Tous ces poteaux rentrants.
Avec un Bercy comble, j'imagine, à qui à la cause du PSG handball.
Pas forcément. Non, tu as un virage avec 200 supporters du PSG. Alors, un peu plus de public parisien. Mais c'est franchement très partagé. Ferran Solé dans l'obligation de marquer, le gaucher face à Rémi Desbonnets. Plutôt petit gardien. Desbonnets face à Solé. Oh, la lucarne rentrante. Oh, la lucarne rentrante. L'arrête véritablement. Oh, c'est incroyable parce qu'en plus, on voit des tirs avec des prises de risque.
Incroyable.
Maximales. Oh là 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 là, ça fait 33 partout. Et nous sommes donc une nouvelle fois à égalité. Premier tireur montpelliérain. Et là, il y a de la qualité quand même du côté des tireurs. Allez, avec ses Sikoussa, Richard, pardon. Et ça marque pour Benjamin Richard. Et une nouvelle fois là, la pression. Et c'est marrant, coach et Marina, parce que c'est les Montpelliérains qui tiraient en deuxième sur les 5 premiers tirs.
Oui.
Là, ce sont les Parisiens. Et donc, il y a vraiment cet effet d'inversion psychologique totale. Balaguer qui a tiré, qui faisait partie des 5 premiers tireurs face à Desbonnets qui finalement ne va pas choisir rester sur sa ligne entre les jambes. Quel sang-froid. Et vous avez vu, il y en a des tireurs qui veulent plutôt faire 1, 2 ou 3 feintes ou parfois 0 feinte pour surprendre direct. Le gardien.
Beaucoup de gauchers évidemment, ça trompe les gardiens.
34 partout. Oh là 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 là, Yannick Green pour les Parisiens qui revient dans la cage. On fait des allers-retours, les 20 mètres qui séparent la ligne médiane. Les équipes, à l'image du football, sont près du rond central, mais on est beaucoup plus proche. Et le pénalty réussi. Fernandez se jette 7 mètres face à Yannick Green. Allez, Montpellier, quand même, il pousse les Parisiens dans le retranchement. C'est Léo Plantin, jeune joueur, qui va se présenter cette fois-ci face à Bolzinger, qui a fait un gros arrêt. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que le grand Charles va pouvoir peut-être offrir un titre à Montpellier face à Plantin. Oh, malgré sa jambe, il s'est détendu de tout son long. Il a presque fait un grand écart, Charles Bolzinger, mais ça rentre pour Plantin. Et nouvelle série, on va arriver les quatrièmes. Je sais pas si on va arriver jusqu'à minuit, on va pouvoir finir jusqu'à minuit tellement quelle est cette séance de tir au but. Ça fait presque un quart d'heure qu'on y est, hein. Marina et coach là-dessus, 35 partout, 7 tirs au but réussis. Nouvelle tentative pour les Montpellierains qui sont les premiers à démarrer dans cette partie. Sikoussa, pleine lucarne, côté bras, il n'a pas choisi de croiser face à Andreas Palika. Et là, c'est Omar Yaya pour Paris l'Égyptien qui, je dis pas ça parce que je veux être prémonitoire, mais a eu quelques maladresses dans cette partie au tir. Le gaucher égyptien face à Rémi Desbonnets pour pourquoi pas la victoire ou pas du MHB. L'arrêt de Desbonnets! Et c'est le MHB qui l'emporte 9 ans après le dernier trophée pour la première d'Éric Mathé, le coach qui a succédé à l'immense Patrice Canaillé. Et bien le MHB qui bat au tir au but 36-35, la joie des Montpellierains devant leur COP, et Paris qui ne sera que champion de France cette année, la Coupe de France qui se refuse encore aux Parisiens depuis 2022. Quel exploit au bout du suspense pour le MHB, vainqueur de la Coupe de France pour Montpellier.
Bravo MHB, bravo aux deux équipes pour cette finale incroyable, et merci, un grand merci à toi Arnaud Valadon, on nous a fait vivre cette finale épique, finale du Masters 1000 de Rome. Eric, je te demande juste un dernier petit point avant de lâcher la main à Marion Bartoli pour Bartoli Time.
Ah, ça déroule, il n'y a plus Yannick Sinner, 7-6, 4-0 pour Carlos Alcaraz, donc qui se dirige vers ce titre au Foro Italico.
Merci beaucoup Eric Salio, Sepp Piocel, merci, salut, à la semaine prochaine, coach Courbis également, salut, un grand merci, salut, bonne soirée à vous, Bartoli Time, tout de suite, Patrick Mouratoglou, Jean-Michel Roussier, président du HAC, Benoît Boutron, régalez-vous, bonne émission, salut.